بودكت.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 47, troisième partie de la suite des deux autres parties.
Tirer
en fait, finalement, exactement, non, c'est bien le 47. 46, 45, 46 et 47 sont sur le même livre. Est-ce que tout le monde va bien ?
Oui !
Oui,
à fond.
Au taquet, donc il y a Julien !
Oui !
Grand Poil !
Oui !
Aymeric !
Oui.
Et Émilie est là.
Bonjour.
Il n'y a pas Urde, mais, il n'y a pas Urde que en ce début d'épisode. Elle doit nous rejoindre en cours d'épisode.
Elle doit payer sa caution de garde à vue.
Dès que c'est fait, donnez au Patreon. Merci.
S'il vous plaît, on a tout donné.
Bon, eh ben écoutez, Aymeric, de quoi qu'on va parler en ce 47e épisode ? Ah, cet épisode numéro 47, plus exactement.
Alors, nous allons parler de Cœur perdu, le troisième single de Renaud, tiré de son album Boucan d'enfer, qui
ah
est
oui
sorti le 14 janvier 2003.
Est-ce que tu as l'air pour
face,
nous ?
Face A, Cœur perdu, face B, Petit PD.
Ah, la fameuse.
Oui.
Voilà.
Mais, c'est l'album avec Manhattan Kaboul.
Oui. C'est le, je l'ai vu en concert. Mon père, il m'avait trouvé des billets pour m'amener au concert. J'avais 18 ans et c'est un des plus beaux moments de ma vie.
Ah ouais.
Les anecdotes de pommes.
Oui. Les anecdotes avec des
c'était
étoiles dans les yeux de
pommes. C'était un peu ton Dorothée à toi, Renaud.
Ah, Renaud, c'est tu vois, on a tous nos chanteurs de quand on était jeunes. Le jour où Renaud va mourir, vous entendrez plus parler de moi pendant deux semaines. Je serai terré au fond de ma chambre. Alors que je n'écoute plus ce qu'il fait, c'est devenu de la merde. Mais voilà.
Tu feras le roi Renaud.
Du coup, t'as aimé quand j'en ai mis dans l'épisode d'avant ?
Ah oui ? Pas celle-là, mais j'étais partagée entre « Ah, c'est Renaud !» et « Ah putain, mais non, quoi !» Oublions qu'il n'est pas à la retraite.
Oui, il a mérité de ne plus rien faire.
Son
être tranquille.
Final.
Mais ce n'est pas de ça dont on va parler, il me semble, Aymeric.
Ah pardon, je me suis trompé. On va pas parler de Cœur perdu, non. On va parler de Cœur perdu en Atlantide, troisième épisode dédié.
Troisième édition.
Troisième enregistrement dédié à ce recueil de nouvelles qui sont toutes liées entre elles.
Eh oui.
Et pour un petit rappel, c'est un recueil de nouvelles écrit par Stephen King, publié sous le nom de Stephen King, et sorti aux États-Unis pour la première fois en 1999, en France pour la première fois en 2001, avec grosso modo un peu plus de 500 pages. 1er mars 2001 en France et 14 septembre 1999.
J'ai pas que la librairie.
J'ai pas le lieu. J'ai pas le lieu. Si, ah si, j'ai le lieu sur la page Wikipédia française. À New York, aux États-Unis, par Scribner, si tu veux, et Albin Michel en France.
Au coin de la 5e et de la 42e.
Voilà.
Albin Michel, ça va pas bouger.
Tant de précision, je pense que les auditoristes nous remercieront.
C'est ça. Et là, nous allons parler donc des trois dernières nouvelles et puis de tout le reste.
Trois dernières nouvelles qui font même pas un tiers de la taille de la première.
Oui, 25%
un quart du livre.
Du contenu du bouquin.
Ouais, parce que t'as deux romans courts et deux nouvelles et un épilogue, en gros. Donc, ouais.
Par qui qu'on commence ?
Ben, on attend que Aymeric nous demande ce qu'on en a pensé.
Ah, pardon, en même temps, on a parlé des deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment de ces trois dernières ?
Ah, bah, uniquement de ces trois dernières. Le reste, on l'a déjà fait. De ces trois dernières, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je pense que c'était
sympa. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Je pense que c'était sympa à lire. Je pense que j'aurais préféré le lire à un moment où j'étais pas obligée de le lire. Du coup, je l'ai lu beaucoup en diagonale pour avancer parce que bah il fallait le lire et qu'il y avait pas le temps. Enfin que moi, en tout cas, j'avais pas le temps. Et la dernière nouvelle est c'était pour moi sans intérêt. L'avant-dernière, c'était un cafard total. Mais pas cafard dans le sens pas bon, cafard dans le sens les vibes, l'ambiance.
Ah, c'était c'est pas chaud des fois l'ambiance, hein, c'est sûr.
Voilà, mais c'est très bien. C'est, je pense que c'est des très bonnes nouvelles à la sauce King qui parle de son époque, qui parle d'une époque en tout cas, des chroniques de vie, très bien. C'est le côté Zola de King.
Bah, c'était pas mal comme au global comme bouquin, c'est quand même pas mal politique pour du King comparé à ce qu'il fait d'habitude chez Bachman, on va dire.
Mmh. Ouais, voilà, ouais. Mmh.
C'est un de ses premiers livres. Engagé, un plus sur l'émotion et avec des vrais messages politiques où il sort vraiment complètement de l'horreur, pour le coup.
Même si on rappelle qu'il a été réformé, hein. Il n'a pas fait la guerre.
Ah ben, ouais, c'était une des questions que j'allais poser. C'est une des questions que j'avais posées tout à l'heure.
Il a quoi, les pieds plats?
Non, c'est la myopie.
Les pieds plats, non, myopie, pieds plats, hypertension et un autre truc. Je l'ai dans la chronique plus loin, mais en effet, ouais, il l'a pas faite. Mais c'est parce que c'est aussi du coup un petit peu le syndrome du survivant, et c'est ce qui fait que la guerre du Vietnam, on en a la version vue de l'Amérique, bah parce que lui, c'est ce côté-là qu'il a vu, quoi.
Oui. Il a vu les gens qui partaient, les gens qui revenaient, quoi.
C'est ça.
Tu dis qu'il y a pas d'horreur. Je trouve qu'il y en a, mais pas l'horreur.
C'est l'horreur de la vie de tous les jours. À cette époque, de sa part, en tout cas.
Ouais, l'horreur du quotidien, en fait, là.
L'horreur de la bête humaine.
C'est un peu comme Rambo, en fait.
Bah oui.
C'est le Rambo de King.
Le Rambo de King.
Bah, enfin, ça parle de ça, Rambo.
Mais alors, en fait,
non, je confonds.
Non, le premier Rambo.
Si, Rambo, c'est un mec qui revient du Vietnam.
C'est totalement ça. Hein, et qui,
bah ouais.
Qui en chie comme c'est pas possible. Hein.
Qui est alors pas, qui est...
Non, non. Bon.
Rambo, c'est du Zola.
C'est un excellent film qu'il faut absolument regarder. Les deux suivantes, c'est un peu...
Faut tous les regarder, ils sont tous bien à leur façon. C'est comme tes enfants, tu vois.
Tu les aimes tous, d'autres un peu plus que d'autres.
Mais il y en a quand même un que je préfère.
Il y en a quand même un qui dort plus. Alors,
Julie.
Alors c'est très partagé. La première, je me suis demandé, mais où veut aller cette histoire?
La première des trois, hein, on est d'accord.
Oui, la première des trois dont on évoquera ce soir. Et après, j'ai fait, ok. La deuxième, effectivement, elle pue la défaite, comme dirait Aurel San. C'est vraiment la loose, mais la loose complète. Puis alors, la fin, c'est vraiment, faut pas être dans un jour de déprime pour la lire. Et puis, j'ai bien aimé l'épilogue. J'aime bien que ça se finisse comme ça. Voilà.
Ok, et tout à l'attaque. Émilie, toi, tu t'en avais eu quoi comme souvenir?
Alors moi, je vais pas pouvoir parler des trois dernières nouvelles, mais vu que j'étais pas là aux deux précédents épisodes, je parlais des deux premières nouvelles. Je vais donner mon ressenti global.
Ouais, voilà, ton ressenti global sur tout le
livre.
Ça doit être un moment très souvenir. D'ailleurs, qui êtes-vous?
C'est le retour. Non, en plus, moi, je l'ai sorti je l'ai lu quand il est sorti en poche, donc il y a quasiment 20 ans, déjà. Donc, honnêtement, moi, le souvenir que j'en ai, c'est un truc un peu nostalgique, comme l'a fait plus tard 2263, mais en un peu plus triste et en moins concentré sur la nostalgie. Et je me suis toujours référé à Cœur perdu en Atlantide comme un roman, parce que j'avais ce souvenir que ces cinq histoires qui sont censées être différentes, mais en fait, il y a ce côté un peu comme dans le film L'effet papillon, où chaque morceau, chaque chapitre est complètement dépendant de ce qui s'est passé avant. Donc, il y a un gros fil rouge qu'on peut pas ignorer. Et donc, les histoires, on peut pas les lire dans le désordre, ou de ne lire que les dernières et pas les premières.
Enfin, bah, je me souviens que quand on a commencé, avant qu'on le lise, tu nous as bien dit, est-ce que là, pas question qu'il y en ait qui en lisent que la quatrième et pas la troisième ou pas dans l'ordre, machin. Et comme en plus, donc tu nous as dit que ça avait un lien avec la Tour Sombre, vraiment, je pensais que c'était pour ça, tu vois, le lien avec la Tour Sombre, il est important, faut le lire dans l'ordre parce qu'il y a... Oh ! Urde vient de se connecter.
Bonsoir.
Coucou, Urde.
Salut.
Alors, il faut le lire dans l'ordre, parce que dans le bouquin, c'est une logique. Après, le lien avec la Tour Sombre, comme on disait dans une conversation à part, et comme je dirais dans les connexions, on n'a pas fini la Tour Sombre.
On n'a pas fini la Tour Sombre.
Mais c'est aussi une question posée.
Ok. Bon, on y reviendra. Donc voilà, moi, je me souvenais de plus d'un roman avec cinq gros chapitres et un truc très nostalgique.
Ok.
En gros.
Ok.
Et toi, Emeric, pendant que Urd s'installe.
Ah. Comme ça, elle pourra nous dire aussi.
Moi, j'ai bien aimé la nouvelle numéro 3. Elle était sympathique à écouter, même si c'était... si je me souviens bien, c'était bien Steve Wu qui l'a raconté. La nouvelle numéro 4, j'ai bien aimé que ce soit William Hurt qui fasse la voix.
Et il est revenu.
Il est revenu pour celle-là, c'était bien. Par contre, j'ai souffert à l'écoute un petit peu parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire ? Il y a trois niveaux de timeline et ça passe de l'une à l'autre et il se perd un petit peu dans des explications. Il y a des choses qui sont dites et redites. Et du coup, comme c'était moi qui devais faire le résumé, j'ai un peu galéré. et puis sinon, la dernière, l'épilogue, rien à dire de spécial dessus. C'est la fin.
C'était pas très joyeux.
Non, c'était globalement, j'ai eu l'impression que l'ambiance du bouquin se dégrader petit à petit avec le temps.
Là, ils sont de plus en plus vieux aussi dans le bouquin. Même s'ils ne sont pas très vieux au final.
Nous aussi, on se dégrade avec le temps.
Non, moi non. Et toi, Urd, alors, ça y est, tu peux nous dire ?
Est-ce que tu te dégrades avec le temps ?
Non, moi, je me bonifie, je pense.
Comme moi.
Non, plus sérieusement, donc, pour les trois dernières parties, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je ne sais pas si vous avez aimé ou pas, du coup, c'est surprise. Mais, non, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça amenait des détails, quelque chose, des points de vue différents. Donc ouais, j'ai passé un bon moment. Après, ce n'est pas forcément très accessible à lire parce qu'il faut un peu... s'y retrouver, voilà, c'est pas simple, mais j'ai bien aimé quand même. Voilà.
Et toi, Emeric ?
Emeric nous a dit, donc on a fait le tour.
Oui,
on va pouvoir attaquer les résumés. Et cette fois, on a trois résumés, trois personnes qui résument, et c'est Julien qui commence.
Allez, comme les sœurs de Charmed. Ah, le pouvoir des sœurs Anouel.
« 1983, Dieu bénisse tout un chacun. » Willy l'aveugle.
6h15. Un homme se réveille grâce à une invention du siècle dernier. C'est pas le Polaroid, c'est le radio-réveil. Il se lève, petit tour dans la salle de bain, puis dans le dressing pour s'habiller en costard-cravate. Avant de partir, sa femme Sharon lui demande 2-3 commissions car elles ont du monde à la maison ce soir. Il se prend un petit café et hop, on y va.
Du lait de poule.
Ah oui, il prend du lait de poule ?
Non, sa femme en commande pour le soir.
Ah oui.
Pour pouvoir en faire le soir.
Elle lui dit « ramène du lait de poule », sous-entendu, tu vas oublier. Et de la cannelle.
Je sais même pas ce que c'est le lait de poule.
C'est un mélange dégueu.
Ouais, j'ai jamais con. Je t'avoue.
Du lait et de l'alcool, non ?
Mais pas forcément, justement. Ah mais bon, oui, il y a la version alcool.
Ok.
Par rapport au Rivella...
Alors, le problème, c'est que j'en ai jamais goûté, donc je peux pas te dire si c'est arrivé là ou pas, du coup.
8h15. On apprend que Noël est dans 8 jours, et notre narrateur est dans un train vers la grande ville. On apprendra après que c'est New York. Dans le wagon, c'est rempli de gens bien habillés qui sentent le café et le parfum, et tout le monde lit le journal pour passer le temps. Là, petit souvenir qui nous interpelle. Notre narrateur a une fois tenu une fille en pleurs pendant que ses potes la frappaient avec une batte de baseball.
Oh mon Dieu, mais qui d'est-ce ?
On apprend aussi que dans son porte-document, il n'y a pas de document. Donc c'est un porte-guirlande de Noël, en fait.
Bah c'est bien, c'est Noël. C'est raccord.
C'est raccord. 8h40. Notre narrateur se cache dans la masse des travailleurs du matin pour gagner son immeuble. Et il laisse de l'argent dans le gobelet, de deux personnes qui font la manche. Là, on apprend que notre narrateur s'appelle Bill et quelqu'un pense que sa femme s'appelle Carole, alors qu'on a appris qu'elle s'appelait Sharon. On apprend aussi qu'il a fait la guerre au Vietnam et il a des souvenirs que nous qualifierons de vivaces. Après une conversation gênante dans l'ascenseur, il rentre dans son bureau.
Tu sens quand même dans ce petit échange qu'il est vraiment pas très à l'aise socialement. On sent que même lui, il cache des choses, il veut pas parler aux gens, quoi. Il veut vraiment être passé le plus inaperçu possible dans la masse des travailleurs.
Oui. Faut pas que ça dépasse. 9h05. Là, on découvre que Bill travaille dans un bureau factice. Le téléphone ne sert pratiquement pas, le photocopieur non plus, les papiers n'ont aucune signification. Il ferme le bureau et il monte sur un escabeau pour, via une trappe, monter à l'étage supérieur où se trouve son second bureau. Et en pénétrant dans son bureau donc du sixième étage, il change de nom. Même dans sa tête, il devient Willy. Ce second bureau ressemble plus à un atelier avec un petit secrétaire. Et là, on apprend que Willy a reçu des décorations pour ses actions au Vietnam. Il a notamment sauvé un de ses camarades qui s'appelle Sullivan. Alors Sullivan.
Ah oh bah tiens.
Encore
ça,
une
ça
fois.
Ça me dit quelque chose. Le chapeau des prénoms, sûrement.
Pim pam poum. Et là, il faut faire des connexions. Donc Sullivan, c'est le membre du trio avec Carol Garber et Bobby Garfield. Donc c'est Sully John dans les premières nouvelles.
Oui, c'est ça.
Et en fait, la connexion, elle se fait vraiment, on va dire en gros, au gros feutre, puisque Willy, lui, quand il a sauvé Sullivan, il était et qui se retrouve après à l'hôpital, il était persuadé que Sully allait le faire chier pour avoir tabassé Carol, alors qu'en fait non, il était juste content qu'un mec de sa ville lui sauve les miches.
C'est ça, parce qu'ils se sont croisés quasiment par hasard sur le terrain, qu'il y ait deux personnes de la même, de la même petite ville au même endroit, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Il pensait qu'il aurait un peu de rancune pour ce qu'il avait fait.
Et donc, ouais, mais bon, en même temps, je pense qu'il avait autre chose à penser vu le...
Mais il pense tellement autre chose qu'il se fout à poil. Et là, on comprend pas non plus, tu vois. Bon, on se dit, le mec, il a installé une trappe. Il loue deux bureaux, il fait une trappe pour passer d'un à l'autre, et il se fout à poil. Mais que va-t-il faire? Et il va s'habiller... Alors, en fait, dans mon résumé, j'ai noté...
J'ai lu
en...
des bouquins avec des serial killers qui faisaient un truc pareil. Ça okay. finit mal.
Ok. Oh. J'ai noté qu'il s'habille en militaire de réserve, mais en fait, c'est moitié ça, moitié un mec qui fait des dépannages, quoi. Donc il s'habille, il sort un classeur et il fait des lignes. Et il écrit « Je suis sincèrement désolé » et il pense qu'il l'a écrit genre 2 millions de fois. Donc je pense que ce monsieur a une névrose et qui, au lieu d'écrire, il va peut-être falloir qu'il aille parler à quelqu'un qui est qualifié pour l'aider.
Tu vois, tous ces détails, en les lisant, bah, j'étais contente de pas prendre de notes parce que j'ai pu les lire sans les lire. En fait, j'ai pu les lire sans m'arrêter sur le détail pour être sûr de rien rater et juste, tu vois, prendre l'ambiance sans avoir tous les détails et en t'écoutant, bah, je suis contente.
Ok.
Ouais, juste apprécier voilà. le moment. Ouais, ça change tout. Hein. Ouais.
Laisse-toi guider.
Je pense donc... qu'elle m'aurait gonflé si j'avais dû lire tous les détails.
Ouais.
Poum, pam, poum. Il a fait ses lignes. Il range le classeur. Alors, il se maquille pour se donner un air un peu bronzé, slash fatigué, slash sans les dire. Et puis, il met une veste rouge. Il prend une caisse en bois. Et on y va pour de folles aventures. Sauf que là, patatras, il y a le téléphone qui sonne. Et ring, Willy, ring. Il se met à flipper 2000.
Très belle imitation du téléphone.
On y était. Heureusement, ce n'est que le mec des pages jaunes. Autre invention du siècle précédent, qui l'appelle pour un encart publicitaire. On s'en fout. Il laisse le rappeleur faire le boulot. Et là, il sort de son second bureau.
Du siècle précédent, à partir du moment où on n'enregistre pas du siècle précédent, de quand se passe cette histoire.
Oula, oui, d'accord.
Cette technique.
C'est important.
C'est vrai.
Les pages jaunes et le radio-réveil n'ont pas été inventés à la fin du 19e siècle.
J'ai pas dit ça ?
Merci,
non.
Pam.
Mais justement, okay. Tu dis que ça date du siècle précédent.
C'est avant les années 2000, les millennials. Allez sur
donc,
Wikipédia.
Par
parce
rapport
que c'est...
à nous, pas par rapport à voilà. Quand se passe l'histoire.
Avec les radiocassettes et les vinyles. Voilà.
Les téléphones rotatifs.
Les téléphones rotatifs. 9h45, Willy tape la causette avec Ralph au sixième étage et on comprend qu'il justifie son absence de son bureau par des interventions de dépannage en chauffage, en climatisation. Enfin, en gros, le mec sort tout le temps parce qu'il a tout le temps des réparations à faire à droite à gauche. Parce que autant au cinquième étage, c'est un bureau un peu de comptable, au sixième étage, vu que c'est un atelier, c'est plutôt un mec qui fait des bricoles. Willy explique aussi, en son fort intérieur, hein, par Ralph, qu'il a une enveloppe avec des billets de vin tout neufs pour l'officier Willock, afin de mettre de l'huile dans les rouages. Donc ça, vous le gardez dans votre esprit, c'est une petite préparation paiement pour après.
Ça sent la corruption.
Et là, bim ! Deuxième raccord avec Malenfant et son chasse-cœur. Il n'y a pas qu'avec la première nouvelle qu'il y a des raccords dans cette troisième histoire. Willy sort de l'immeuble. On apprend que Malenfant a l'air aussi détestable après qu'avant, hein, pour le coup.
Malenfant, c'est...
En gros, Ronnie Malenfant, c'était le roux qui les a tous entraînés dans la deuxième nouvelle et qui avait le même comportement au Vietnam parce qu'il a fini par partir au Vietnam avec les autres.
Mmh. Oui, c'est ça, c'est le connard de la deuxième nouvelle.
Voilà, pas très étonnant.
Willy sort de l'immeuble et il ne craint plus maintenant de croiser ses voisins du cinquième étage. Il dit, même quand je les vois, en fait, ils me reconnaissent pas. Et pour vraiment bien détonner entre le Bill et Willy, quand il sort et qu'il y a le même mendiant et qu'il a donné de l'argent en entrant dans l'immeuble, quand il sort, il l'insulte. Voilà, il dit votre travail, etc. Voilà, pour vraiment marquer que ce sont deux personnes différentes. 10h, Willy rentre dans un hôtel pour faire encore une transformation et passer de Willy Sherman à Willy Garfield l'aveugle. Donc là, le mec change encore des fringues. Il retourne sa veste que lui a confectionnée sa femme. Elle passe de rouge à verte. Et il sort avec la canne blanche. Ah oui, des lunettes. Alors en plus, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est les lunettes où il y avait des petits bouts de cuir pour protéger là sur le côté. Comme ça, on voit vraiment pas vos yeux.
Les lunettes que tu vois quand tu sors d'une opération des yeux où ça, t'as une, même la branche est très très épaisse pour
cacher au maximum. Ça
passe de tous les côtés. Ce qui revient au même.
Moi, je la voyais avec le petit bout de cuir, comme ça. Mmh. Une sorte d'œillère, en fait.
Ouais.
Et on apprend que Willy va vraiment devenir aveugle vers 14h. Et c'est une sorte de... Alors, il a été blessé aux yeux pendant la guerre, notamment quand il a sauvé Sully. Mais moi, je ne m'explique pas que le mec devienne aveugle de 14 à 16 heures.
Mais il explique.
Ça participe au côté psychologique de tout ce qu'il réalise jusque-là, entre les lignes, entre la pénitence qu'il effectue, pour devenir vraiment un vétéran, il revit quelque part les événements qui l'ont amené à être aveugle pendant une courte, pas une courte, pendant une certaine période après les événements où ils ont pris une bombe dans la gueule.
Mais c'est ce que j'ai compris aussi, que c'était psychologique, et puis je pense que ça lui prend un certain temps pour être, par contre, il est complètement aveugle, vraiment.
Mais il est complètement aveugle juste parce qu'il regarde le soleil en face pour redevenir aveugle.
Pour moi, c'était dans sa tête.
Pour moi, il se mettait face au soleil et petit à petit, ça lui cramait les yeux. Il retrouve la vue au bout d'un moment qu'il arrête de regarder le soleil.
Ah, ok. Moi, j'étais team, c'est psycho. Mais franchement, ta théorie est possible, Pomme.
Oui, oui.
Moi, je la trouve mieux. Mais bon, après...
disons que c'est plus raccord avec l'accident qu'il a eu où globalement, il était cramé. Donc, ça pourrait le faire, vraiment, pour le coup.
Oui, il a peut-être une facilité, du coup, à reperdre un peu la vue face au soleil, mais il me semblait qu'il le disait. Bon.
Ok.
10h15, Willy se place devant une église de la 5e avenue, c'est un de ses spots. Il ouvre sa caisse en bois et en fait cette caisse, elle lui permet de faire l'aumône. Donc quand il l'ouvre, dessus, il y a un écriteau qui explique que c'est un ancien combattant, il a perdu la vie et il a besoin de financer la scolarité de son fils. Et après, il y a tout un pan où Willy se parle à lui-même et il explique comment il doit se tenir, comment il doit agir avec les gens pour, en gros, susciter un peu de pitié mais pas trop. Et alors, j'ai pas su déchiffrer si c'était pour tirer un maximum de fric aux gens ou juste parce que il faisait ce truc-là, mais il avait pas vraiment envie de le faire, c'est-à-dire la manche. Et donc, c'était pour garder, un peu de self-esteem.
Non, pour le coup, j'ai plutôt eu l'impression qu'il arrivait à manipuler les gens, parce que ça a l'air de faire un moment qu'il le pratique. Donc, c'est peut-être justement cette expérience qui fait que maintenant il sait comment parler aux gens, comment réagir en face d'eux pour que il touche du pognon, parce que on va le voir un peu après, il va se faire beaucoup d'argent. Il a même la petite technique de, il laisse quelques billets, quelques pièces au fond de la boîte pour amorcer la journée. Donc ça a l'air d'être plus, pour moi c'était plutôt de l'expérience et
donc de la manipulation.
De la manipulation.
Oh, c'est possible.
Moi, j'étais un peu comme toi, Julien, je savais pas trop parce que jusque-là, on est raccord avec le fait qu'il veut faire pénitence. Mais après, ça l'empêche pas non plus de le faire le mieux possible, tu vois, et tirer des thunes. Enfin, c'est pas forcément compatible, mais je pense pas non plus qu'il faisait pour les thunes.
En fait, un peu plus tard, on apprend que la plupart de ce qu'il gagne, il le refile.
Aux églises.
Assauts, aux églises, ouais.
Moi, c'est pas la plupart de ce qu'il gagne, c'est les pièces. Moi, c'est ça que j'ai compris.
Oui, ou peut-être les pièces, mais enfin, c'est pas déconnant de se dire qu'il essaie d'en gagner un maximum parce qu'il en refile beaucoup aussi. Et que plus il en gagnera, et plus il en refilera.
Ouais, ouais.
Et il s'en garde quand même, quand on voit à la fin de la journée, il se garde une belle somme pour lui, ça va, c'est pas. Il est pas malheureux.
Non.
Ah oui, il le dit qu'il va là exprès pour ça, il a choisi ce spot-là exprès pour ça.
Bon, en même temps, il faut qu'il ramène des thunes quand même pour sa femme, tu vois, donc ça colle.
Pour l'emmener au cinéma. 10h45, et ben on va parler sous. Donc Willy, déjà, il a mis un second fond dans sa caisse en bois. Alors lui, il dit que c'est pas pour se faire voler, mais c'est plus effectivement pour qu'il y ait toujours un petit peu d'argent quand tu regardes et que tu veux en mettre, mais pas trop. Mais c'est un système plutôt ingénieux. Et là, on apprend qu'il palpe pas mal parce qu'il se fait à peu près 3 000 $ par jour. Enfin, il pense se faire 3 000 $ cette journée-là. Et il dit que c'est une journée normale.
C'est plutôt bien.
Ça va.
Avec l'inflation, on est pas mal.
Ouais, ça se voit qu'il est déclaré aux impôts, hein.
Non.
Puis surtout, ça se voit qu'il est dans un coin où il y a des gens qui ont beaucoup trop d'argent, puisqu'ils en dépensent autant pour quelqu'un qu'ils connaissent même pas au coin d'une rue. En ayant, je suis sûr, même pas l'impression qu'ils en donnent tant que ça.
Sûrement.
Rendez l'argent.
Et rien qu'en palpant les pièces et les billets, le mec fait les comptes et tout. Il est plutôt bon. Il aurait pu être comptable, en fait, ce Willy. Bim bam boum, oui, c'est le moment que choisit l'officier Willock pour rentrer dans l'histoire. Sauf que, à peine est-il arrivé dans l'histoire, qu'il y a un passant qui a également fait le Vietnam qui arrive. Et là, s'engage une discussion d'anciens combattants. Et à la fin, donc, le récit est tout à fait crédible de la part de Willy, donc c'est pas un mytho, il a vraiment fait le Vietnam, etc. Je dis ça parce que Willock pense que Willy est un menteur. Et, le passant va mettre un billet de 100 dans la boîte de Willy. Ce qui fout le flic sur le cul. Au sens littéral, pas au sens propre. Et Willock, lui, il pense que Willy, c'est un menteur. Mais c'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est de prendre le pot de vin dans l'enveloppe que Willy lui tend de manière non discrète. Et ça l'énerve, le Willock. Et malgré les 300 $ que le policier vient prendre, alors on sait pas trop, je crois que c'est mensuellement, le policier, il est pas content. Il veut plus. Et surtout, il veut plus et il le menace. Il menace, par exemple, de filer Willy pour voir ce qu'il fait vraiment dans la vie. Et ça, Willy, il aime pas trop parce que son petit manège, il est plutôt bien rodé. Donc, Willy fait un truc qui, normalement, il ne fait pas. Il l'a expliqué un peu avant. Mais dans sa manière pour susciter la pitié ou pour passer inaperçu, en fait, il ne parle jamais. Il a brisé cette règle une seule fois en 4-5 ans. Mais là, du coup, il rompt le silence et il va lui-même menacer à demi-mot le flic qui pense que quelqu'un le prend en photo, c'est pour ça qu'il lui remet l'enveloppe de manière non subtile.
Il nous dira aussi que Willock, c'est le dernier d'une longue série de flics qu'il a croisé à qui il a filé des pots de vin, mais qu'à chaque fois, ça empirait un petit peu, les mecs, ils en voulaient toujours un petit peu plus.
13h40, Willy ne voit pratiquement plus. Depuis la visite du flic, il y a deux femmes qui sont venues lui apporter un café et une soupe, donc en plus le mec mange à l'œil. Et il repense à Willock. Et c'est pas la première fois qu'un flic lui demande plus dans l'enveloppe. Alors on apprend qu'au début, Willy il filait 25 $. Donc là aussi, l'inflation, ça marche pour les pots de vin. Fois 12, hein, quand même. À un autre officier pour avoir la paix. Mais c'est pas tant l'argent, le fait de donner plus d'argent qui tracasse Willy. C'est le fait que le policier soit en colère. Parce qu'il dit que la colère, ça peut l'amener à lui faire des trucs non raisonnables. 16h25, la vue revient peu à peu pour Willy, et donc là c'est le moment où il décide de remballer ses affaires, donc il refait tout le chemin en sens inverse par rapport à ce matin, et il est toujours en train de machiner à propos de ce que peut faire ce flic. Il repense aussi à la fois où il a failli se faire voler sa caisse, enfin se faire braquer sa caisse avec son butin, par des jeunes qui l'encerclaient, mais il dit « j'ai juste hurlé, ces mecs veulent me voler !» et ça les a fait partir. Technique, je sais pas si ça marche vraiment.
Ça dépend où tu es, mais vu qu'il
à
est
à New York,
potentiellement,
ça paraît peu probable.
Ouais.
Ouais.
16h40. Alors là, il s'est changé en Willy Sherman dans les toilettes de l'hôtel. Il retourne au bureau et sur le trajet, bah, est toujours bloqué avec cette histoire de Carol Gerber. Il dit que bah, lui était jaloux de Bobby Garfield parce que Bobby il a aidé Carol après son agression et qu'il a châtié Harry. Donc Harry, c'est le mec qui s'est fait péter la gueule par Bobby dans l'histoire numéro 1. Et bah ça, oui, ça le rend jaloux. On sait pas trop pourquoi, mais voilà.
Bah, il aurait voulu être plus courageux parce que déjà il s'en veut d'avoir tenu Carol.
Mmh.
Et ouais.
Et puis il a continué à traîner avec Harry après cet épisode-là, alors qu'il s'est clairement aperçu qu'ils étaient
voilà.
allés trop loin.
Ouais. Et puis que globalement c'était une merde parce qu'en plus il était même pas chef, tu vois, il suivait Harry,
ouais, ouais.
Aucune dignité quoi.
Ouais, c'était un lâche.
Oui, il était qu'une merde.
C'est ça.
17h15, petite discussion avec son voisin du 6e du matin qui fait le Père Noël en bas de l'immeuble maintenant. Voilà, c'est tout. Rien à noter. 17h25, Willy fait les comptes et range les billets pour lui, les pièces dans des sacs qui seront donnés aux bonnes œuvres. Il change d'habit. Là, il feuillette l'album des souvenirs avec des photos qui lui font plus ou moins plaisir. Donc, il y a des photos où il y a le fameux Harry, là. Et du coup, ça lui fait un peu peur. Il y a des photos de Sullivan, etc. Ça te fait un peu plus plaisir. Et encore une fois, le souvenir de la correction donnée à Carol vient le tourmenter. Il a aussi découpé des coupures de presse par rapport à Carol. Et là, on apprend qu'elle a fait partie d'un groupe qui a commis un attentat dans une université. Sauf que c'était un accident, dans ce qui est, comment c'est décrit. C'est-à-dire qu'ils ont placé une bombe. Donc, c'était un groupe pacifiste. Et je fais des gros guillemets sonores parce qu'un groupe pacifiste qui pose des bombes n'est pas pacifiste.
Ça marche.
Non. Donc ils ont posé une bombe qui devait exploser à 6h du matin dans une fac quand elle était vide. Sauf qu'en fait, elle a explosé dans la journée et que c'était une journée de recrutement. Donc il y avait beaucoup de monde et que ça a fait des morts. Terrible.
Bah c'est ça. En fait, ça devait exploser avant que le recrutement commence pour empêcher le recrutement.
Mmh.
Parce que c'était pas le recrutement pour la fac, c'était le recrutement pour l'armée, il me semble.
Oui, 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 clairement.
Et du coup, voilà, donc ça a pas pété au bon moment.
C'est dans la droite ligne de ce que faisait Carol à la fin de la deuxième nouvelle déjà.
Oui, c'est
deuxième.
Ça.
Parmi les étudiants qui ont commis cet acte, certains seront tués par la police, mais pas Carol. Carol, en fait, elle disparaît. On ne sait pas ce qu'elle devient. On ne retrouve pas son corps. On pense qu'elle a... Je crois qu'à un moment, il y a un suicide collectif par le feu dans une maison et on pense qu'elle est dedans, mais on ne retrouve pas son corps. On retrouve son sang, je crois.
La maison a cramé. Les gens qui sont morts dedans sont morts avant que ça ait cramé. Elle et le chef, on ne retrouve pas leur corps, mais elle, on retrouve quand même son sang.
Ouais,
donc,
c'est ça,
en gros, ce qu'ils se disent,
sanguin, quoi, mais ouais.
C'est... Soit ils n'ont pas retrouvé son corps, soit l'histoire est pire et finalement c'est mieux de pas savoir. Je crois que c'était un peu comme ça qu'ils le présentaient. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas joli.
Ouais.
Elle est considérée comme morte, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
De toute façon, on verra par la suite que c'est vraiment ça. Donc, ensuite, c'est le policier qui le retravaille encore. Ce mec est un peu monomaniaque. Hein. Il peut pas le tuer, mais il se dit que Slocum, lui, pourrait. On sait pas encore c'est qui ce Slocum, on va l'apprendre juste après. Et puis il part. Minuit, Bill et Sharon discutent sur l'oreiller, donc il y a le repas avec les invités, ils discutent un peu de la qualité des invités. Après ils ont fait l'amour, et puis là ils discutent, et puis Bill lui dit « Ouais, je pense que je vais poser une semaine de vacances ». Et il lui dit pas pourquoi, mais dans sa tête, Bill dit « Bah c'est le temps que Slocum lui rende un service ». Fin.
On sent que, comment dire, il veut un peu expier ses péchés, mais que s'il faut tuer un flic dans la balance pour pouvoir continuer à le faire, pour pis.
Ouais.
Ça, je l'avais pas compris comme ça à la fin. Je pense que je l'ai lu peut-être un peu trop vite.
Tu avais compris comment ?
Je sais qu'il y avait pas de vraie fin, en fait, que il prenait une semaine de vacances en attendant que l'autre se calme, en fait, mais pas qu'il y avait...
Non,
ah non, moi je pense
j'avais
qu'il
pas capté
envoyer,
le côté. Ouais,
il va envoyer
ouais,
son ancien camarade pour le tuer.
Ouais, moi je l'avais soit pas compris, soit oublié, soit pas lu parce que j'ai lu un peu trop vite.
Ok. Non,
j'ai zappé complètement.
Mais écoute, merci Julien pour, c'était pour un plaisir. Ce résumé. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait un résumé.
J'en donne pas trop, tu sais, ils sont tellement bons que faut créer la rareté un peu. C'est comme les NFT. Hein.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette nouvelle ?
Non, non.
Non, rien, personne. Eh bien, je propose qu'on passe à la suivante. Et cette fois, c'est Emeric qui va nous en parler.
Oui. ...1999, pourquoi nous étions au Vietnam ? Alors, on retrouve Sully, le copain de Bobby, et puis le gars qui était à la fac, sauf qu'en fait, on est en 1999, 26 ans après que Sully soit revenu de la guerre du Vietnam. Alors, il se remémore son évacuation en hélicoptère, et c'était pas la joie, il avait le ventre à l'air, enfin, le ventre ouvert, les tripes à l'air, et il se retrouve donc dans un hôpital de campagne. Et il se rend compte qu'il est le seul à voir une certaine Mama San, une vieille dame qui l'observe alors qu'il agonise sur son lit. Alors, une Mama San.
Je me suis dit que ce passage, ces descriptions plairaient à Urd.
Ah, tout à fait.
Oui.
Il y en a d'autres.
Histoire de trip à l'air.
Ah oui, puis une couille en moins aussi.
Oui, pendant aussi. Qu'on y...
On apprendra un peu
puis
plus.
C'est vraiment très très littéral. Hein. Il nous le dira plusieurs fois qu'il a quelques mètres d'intestin qui sont à côté, pas à l'intérieur.
Ouais. Ouais. Ouais, ça me rappelle Running Man.
Ouais. Exactement.
C'est ça. Hein. Ouais, ouais. Running Man, c'était pire. Là, ça va en cours, c'est juste un bout.
Donc, j'ai cherché une Mama San. C'est généralement une femme en position d'autorité. Et plus spécifiquement, une responsable d'une maison de geisha, d'un bar ou d'une discothèque en Asie de l'Est. On verra plus tard qu'en fait, c'est une grand-mère dans un village. Mmh. Et donc, cette Mama San qui l'observe est en fait une vieille dame qui apparemment aurait été tuée précédemment par Maléfante.
Malenfant. Ronnie, le connard de la deuxième saison.
Ouais, il est un peu fifou.
Et alors, je sais pas si c'est Malenfant ou Maléfante, enfin, dans la version que j'ai en papier.
Alors, en français, c'est Malenfant, c'est vraiment écrit Malenfant.
Voilà, qui est donc dans l'unité de Sully. Les médecins finissent par sauver Sully et même réussissent à sauver un de ses roux-doudous.
Contrairement à Church.
Et finalement, Sully est envoyé aux USA dans un hôpital à San Francisco, dans le même service que Willy. Willy qui lui a sauvé la vie. Et Willy recommence commence à retrouver la vue, mais il a peur de ne pas retrouver complètement la vue.
Que Sully, lui, ne retrouve pas sa deuxième couille.
Non, ça ne repousse pas.
Mais ça ne le dérange pas trop.
Non. Et en... Sully, de son côté, il voit toujours la Mama San et qui vient lui rendre visite chaque matin et chaque soir. Elle change de vêtements de temps en temps, mais le plus souvent, elle est habillée comme le jour de sa mort, pantalon vert, tunique orange, chaussures rouges avec des écritures en chinois dessus.
J'ai trouvé ce petit détail assez, assez étrange, le fait que...
Et puis,
j'ai l'impression qu'il y a un esprit, un fantôme qui change de vêtements. De temps.
Ouais.
Puis les jeux, c'est original.
On est sûr que c'était du chinois dessus ?
C'est ce qui est écrit dans le texte que j'ai.
Ok. Ok, ok.
Alors, pendant sa convalescence, en lisant le San Francisco Chronicle, Sully découvre que Carole, son ex-petite amie, est devenue une terroriste. Carole la Rouge, elle est surnommée.
C'est stylé.
Ça fait très pirate.
Mm. Ça fait très écarlate, cramoisie.
Vrai. Oh.
Donc la Mama San l'avait suivi pendant son retour au Connecticut. Il la voyait à peu près une fois par jour quand il était retourné à Harwich. À San Francisco, le docteur Conroy, un des psys de l'hôpital, lui avait dit qu'il finirait par comprendre la raison des visions, mais n'a jamais voulu lui expliquer. Il préférait lui demander de parler de la guerre et de ses fantasmes sexuels.
Ça l'a saoulé.
Ouais. Bah oui. Il n'avait pas trop de respect pour le docteur Conroy, même s'il avait un peu de sympathie. Donc en empruntant des livres au psy puis à l'hôpital, il a fini par comprendre que la vision de la Mama-san, c'était peut-être pour lui un moyen de gérer son stress post-traumatique. Et en découvrant ça, il a fini par avoir une sorte d'acceptation et par la voir de moins en moins souvent.
Ou alors c'est l'enfant de Sixième Sens.
et ce, les univers connectés, Sixième Sens, c'est dans le King Universe.
J'avoue que là, ça devient violent, là.
Et en fait, voilà, c'est ça.
On apprend donc que Sully vit désormais à Milford, au nord de Harwich, et que Harwich est devenu un peu une zone un peu craignos. Il y travaille la journée, il gère une concession automobile, mais il se dépêche de rentrer le soir. Un jour d'été, il prend sa voiture de fonction, une Chevrolet Caprice de démonstration, et part en direction de New York pour assister à l'enterrement d'un certain Pagano. Pags pour les intimes. C'est un soldat de son unité qui était présent le jour où Slocum,
c'est sale, mais...
Un autre gars de l'unité, donc Slocum, qui avait tiré dans la tête de Clemson. Clemson qui était un ami de Malenfante.
Bah, un gars du groupe, enfin un gars de l'unité.
Un gars du groupe, quoi, de l'unité. Donc Pags est mort d'un cancer qui est, d'après Sully, l'une des trois causes de mortalité des anciens du Vietnam avec la drogue et le suicide.
Une grosse ambiance.
Ouais. À l'enterrement, Sully avait croisé Stephen Baker, le nouveau lieutenant, comme il le surnommait, et ils avaient discuté. Et Sully maintenant rentre chez lui au volant de sa Caprice, tout en repensant à leur conversation et à leur service au Vietnam. Notamment, il se souvient de l'harmonica de Pags, comment tout le monde trouvait ça insupportable, et comment Slocum avait convaincu Pags d'arrêter d'en jouer, en menaçant de lui introduire...
Ah oui.
Là où le soleil ne brille pas.
Là où le soleil ne brille pas, et surtout, après, il y a plus tard, il raconte qu'il serait capable de jouer je ne sais plus quel morceau,
oui.
sans respirer. Perdu dans ses pensées, Sully ne se rend pas compte qu'il se retrouve pris dans le trafic et dans un embouteillage. Il repense à quand il était gamin, quand il était ami avec Bobby et qu'il espérait que Carol Gerber le regarde rien qu'une fois comme elle regardait Bobby. Bon, elle avait fini par le regarder, mais ce n'était pas pareil.
C'était le second choix.
C'était pas son premier amour.
Ouais. Même si lui sera son premier.
Oui, mais pas le premier amour dans la tête.
Ça sera son premier
rapport sexuel.
Voilà, je cherchais un terme.
Voilà,
je cherchais un terme pas complètement concon et j'en avais que des concons qui me
font.
C'est la première chose.
C'était sa première. Son premier zizi.
C'est encore pire.
D'ailleurs, oui. Sully se demande ce que devient Bobby, puis l'instant d'après, il repense à sa première fois avec Carole.
Ben voilà.
Voilà.
Est-ce que c'est déjà passé ou est-ce que t'en parles plus tard de ce qui s'est passé concrètement dans ce village au Vietnam ?
Ah oui, on y vient parce qu'en fait, okay, ça ne fait que faire des va-et-vient dans cette nouvelle.
Ouais, c'est pour ça que je savais pas si tu l'avais détaillé ou pas.
Non, on le détaillera plus tard. Donc, il a dérivé de Pax à Bobby parce que il se ressemblait vaguement physiquement, de loin, de dos et par la nuit de sans lune. Donc la voiture finalement est complètement à l'arrêt, Sully toujours pensif, est de retour à l'enterrement et sa discussion avec Diefenbaker qui a déclenché d'autres souvenirs. Il se rappelle comment Malenfant, Clemson et d'autres avaient fini par perdre la tête après une violente embuscade qui s'était déroulée après la chute de leurs hélicoptères. Donc ils avaient réussi à s'enfuir et la troupe à peine arrivée dans un village, Malenfant avait tué la vieille dame à coups de avec sa baïonnette. Il s'était mis à hurler des horreurs, qu'il allait décapiter tous les villageois pour faire des exemples. Et Diefenbaker avait fait un signe à Slocum, et ce dernier, sans hésiter, avait tiré dans la tête de Clemson. Retour
là,
à l'embouteillage.
Se font.
Ouais. Retour à l'embouteillage, et quand Sully tourne la tête, la Mama-san est présente dans le siège passager.
Mais il est content de la voir.
Ouais,
il a fini par par accepter sa présence, et même quand elle n'est pas là, ça lui fait un peu bizarre parfois.
À l'enterrement, Sully avait accompagné Diefenbaker sorti fumé. Ils avaient discuté des ravages de l'agent orange sur la santé des vétérans et des réunions d'anciens combattants, où un certain Andy Ackermervers avait parlé de se suicider. Hack était aussi avec Sully quand ils étaient arrivés au village, que Maléfante et ses potes avaient commencé à tirer partout. C'est là que la vieille dame était sortie d'une maison et s'en était prise à Maléfante qui l'avait assommée d'un coup de crosse.
R3 dans Warzone. Si jamais.
Diefenbaker avait ramené Sully au présent. Ils avaient continué à parler des conséquences de la guerre au Vietnam, des capacités sexuelles de Sully, qui, malgré l'absence d'un testicule, pouvait quand même fonctionner.
Ouais, mais et il dit bon,
Viagra. Il parle du Viagra. Quand
il
même.
Dit c'est ouais, plus de peine que de.
Mais c'est ça, ouais.
Le ratio gain-bénéfice, il est pas bon, quoi.
Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais.
C'est trop de travail pour mettre en route la machine.
Ouais.
Et Sully a été surpris quand Diefenbaker lui avait demandé s'il voyait toujours la même Hassan. Retour à la voiture. Sully parle à la même Hassan. Et lui raconte que Malenfant et les autres n'étaient pas plus fous que d'autres, qu'ils avaient même eu du courage dans des moments atroces. Et il fait le parallèle entre Malenfant et la bombe de Carole qui avait explosé au mauvais moment. Pour lui, Malenfant et son craquage et les autres qui avaient commencé à tirer sur des villageois innocents, c'était comme une bombe qui avait explosé au mauvais moment.
Ouais, mais c'est ça, c'est une des choses que j'ai bien aimé moi dans cette nouvelle, c'est que même ce qu'ils ont fait dans ce village est absolument horrible et innommable, et en même temps, il explique que c'était des gamins qui passaient leur journée à se faire tirer dessus, qui étaient sûrement fatigués, effrayés, qui pensaient qu'ils allaient crever, avec aussi très certainement un fond de racisme mélangé à tout le reste, qui fait qu'ils ont fini, comme tu dis, par exploser comme une bombe mal réglée et pas placée au bon endroit, quoi. Il le présente pas comme il y avait les gentils, les méchants, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Mais comme souvent, de toute façon, avec King.
Ouais, mais en plus, là, en l'occurrence, tout le monde était méchant. Enfin, c'était vraiment un lose-lose, quoi, cette histoire.
Il continue de parler à la Mamasan, et il lui raconte quand il a trouvé Willy Sherman, pendant qu'il s'enfuyait, qu'il l'a reconnu, il lui a raconté... Enfin, il lui a sorti une phrase qui s'était dite quand ils étaient enfants, je crois. Et c'est là comme ça qu'ils se sont reconnus. Et puis, on sent que les souvenirs deviennent de plus en plus oppressants. Il parle des attaquants, des combattants vietnamiens qui leur tiraient dessus. Je crois à ce moment-là, il commence déjà à parler des mortiers. On sent que la pression monte dans ses souvenirs.
Donc même dans la manière dont c'est écrit, moi je me sentais un peu oppressé par ce qu'ils étaient en train de vivre.
C'est pas étonnant qu'ils se remettent à revoir la Mamasan, justement. Il est tellement stressé qu'il s'attaque à une des cigarettes qu'il gardait au cas où dans la boîte à gants. Et il s'en allume. Il se rappelle au dernier moment qu'il est dans une voiture de démonstration et qu'il doit montrer l'exemple pour ses vendeurs, donc il sort pour éviter que la voiture sente la clope. Et il manque s'étouffer. Donc là, il commence à avoir mal à la gorge, il a des points noirs devant les yeux, et il voit que d'autres personnes sortent de leur voiture, et il pense apercevoir Carole. Sauf que Carole, si elle n'était pas morte, aurait eu la cinquantaine, pas 35, comme la femme qui l'aperçoit, donc il la suit, il l'appelle, et soudain, il entend une sorte de hennissement qui se fait de plus en plus fort. Et moi, je me suis demandé, mais hennissement, mais c'est très, très bizarre. J'aurais plutôt dit sifflement. Bon. Vu que, en fait, c'est un objet qui tombe du ciel et qui lévite de justesse un abat-jour. Et un autre objet tombe du ciel, et en fait, c'est un téléphone portable qui se retrouve encastré dans la tête de Carole, entre guillemets.
Oui, ça devient très graphique, là, ce qu'ils sont tous en train de prendre sur le coin de la gueule.
Des gens se mettent à hurler, des objets commencent à tomber du ciel, un micro-ondes, une chaise, une batte, puis un énorme piano à queue qui, j'ai l'impression, a l'air de tomber plutôt au ralenti, pour qu'il ait le temps de le voir comme ça aussi.
Ouais,
pour lui, même tout se passe au ralenti, il va voir tous les détails des gens qui vont crever autour de lui, les choses qui lui passent vraiment pas loin, jusqu'à l'objet dont tu vas parler juste après.
Juste pour savoir, avant de dire où ça va cette histoire, à ce moment-là, vous aviez compris ce qui se passait ou pas, vous ?
Je me suis dit qu'il était probablement en train de faire un délire de PTSD.
Moi, je me suis demandé si du coup, c'était pas un raccord avec la Tour Sombre.
Idem. Je me suis dit, attends, mais là, il y a des mecs qui vont venir d'un autre univers et tout, patati patata.
Non, mais ça, il y a une porte qui s'est ouverte, ouais. Mais à l'envers et tout tombe.
Ouais, je me suis dit la même chose.
Comme j'étais en train de...
Je me suis juste dit qu'il y avait un déménagement qui avait mal tourné, que
c'était pas vraiment au mauvais endroit. Ou c'est ça, c'est un avion, j'en sais rien. Bon.
J'avais oublié qu'on était en 99 et qu'il était sur l'autoroute et pas dans New York. J'avais retenu qu'il était dans New York et je me suis demandé si il n'était pas en train de passer en dessous des tours pendant les attentats des Twin Towers, mais c'est pas la bonne année.
Je me suis posé la question vite fait et je n'avais pas l'année en tête, mais je me suis dit que ça, c'était bizarre et pas raccord avec l'histoire.
Non, non plus.
Mais ça m'est venu en tête aussi, ouais.
C'est et après, je me suis dit, est-ce que c'était un autre attentat, enfin, des bombes, tout ça, qu'on aurait posé, mais c'était pas raccord non plus, vu qu'on est en 99. Donc, je me suis dit, bon, c'est sûrement dans sa tête.
Il y avait pas, les bombes n'existaient pas en 99. Ça aurait été inventé après. Bon, continuons pour savoir où nous allons.
Retour à l'enterrement. Sully avait en fait, on comprend pourquoi Sully a craqué pour la clope, c'est parce qu'il a fini avec cette discussion avec Diefenbaker qui lui faisait remonter des souvenirs. Il avait fini par lui demander une cigarette et il s'était remémoré le moment où Slocum et Diefenbaker s'étaient regardés et où Slocum avait tué Clemson. Il avait toujours cru que Slocum avait choisi Clemson parce qu'il le connaissait moins que Malefant, que Malefant était plus proche de Slocum, mais en fait c'est tout simplement parce que Malefant était plus en arrière que Clemson et que tous les gars qui étaient en train de tirer n'auraient pas eu l'attention attirée par le fait que Slocum tue Malefant.
Il fallait que tout le monde le voie.
Il fallait que ce soit un exemple que tout le monde voit. Diff et Sully avaient continué à discuter, donc ils ont continué à discuter de la réunion des vétérans. Sully s'était rappelé de son état de déchéance à l'époque, qui se saoulait avant d'aller à chaque réunion, puis qui se réveillait un peu n'importe où, notamment, je crois, avec l'ex-femme d'un autre ancien soldat. Puis Diff lui avait expliqué que sa mamassane à lui, c'était Ronnie Malefant, et il s'est lancé dans un grand discours sur sa théorie que, en fait, ils sont pas dans la réalité aujourd'hui, qu'ils sont toujours dans l'enfer de la guerre au Vietnam, et que toute cette vie qu'ils ont menée depuis, c'était qu'un fantasme.
Des gens qui vont bien, je crois, donc on peut le dire, ils sont bien remis de tout ça.
Un truc à noter, c'est que selon lui, Slocum avait sauvé leur âme ce jour-là, en tuant Clemson et en arrêtant le massacre. Ils ont continué à discuter, et puis Diefenbaker avait présenté sa compagne à Sully, il lui avait même proposé d'aller boire un verre, mais Sully a dit non en voulant s'échapper des embouteillages. C'est raté. Retour à l'embouteillage, et cette fois-ci, c'est un objet qui tombe, qui ne fait pas de mal à Sully, c'est un gant de baseball, un gant sur lequel il est écrit en gros Garfield. C'est le gant de Bobby. Il renifle le gant, il se prend un bon...
C'est ça, c'est le gant qu'avait Willy aussi. C'est, d'ailleurs, je crois qu'on voit que... c'est dans celle-là qu'ils disent qu'on voit que le nom de Willy a été aussi effacé.
Ouais. Le nom a été effacé, réécrit plusieurs fois.
Et il repense encore une fois à son enfance. Et soudain, la mamassane l'appelle et lui dit qu'elle va le protéger. Donc il se précipite dans ses bras et je crois que le terme c'est dans son
giron.
Non, pas dans son giron, c'est dans son étreinte de mort ou un truc comme ça, ou dans son étreinte mortelle. Donc là on a un petit avant-goût, parce qu'en fait le lendemain matin, Diefenbaker découvre dans le journal que Sully est mort d'une crise cardiaque dans l'embouteillage. Après, il y a quelques petites tergiversations sur le fait que finalement, il n'est pas mort au Vietnam et que finalement, il est délivré de la mamassane. Voilà.
Moi, je pensais qu'il prendrait un truc sur la gueule. Hein.
C'est vrai ?
Ouais.
Ouais, moi aussi. Hein,
ah, non.
Je me suis dit que ça allait faire un petit peu peut-être à la fin comme le début de la série... Dead Like Me,
ouais.
Où l'héroïne en fait meurt dès le premier épisode, elle se prend la lunette
de la station spatiale
de la station Mir.
Mais oui, oui, moi aussi, ouais, jusqu'à la dernière phrase où Diefenbaker voit le journal, j'étais dans le déni total
bien,
de
cette
la
série.
Réalité de cette histoire.
D'ailleurs, il n'y a pas une... C'est pas une meuf de Doctor Who ? Non, c'est une meuf d'urgence qui joue dedans, il me semble. Je vais aller voir.
T'as aussi
celui qui joue Elisabeth.
Dans Homeland, il joue dans...
Il joue dans Princess Bride.
Ouais, aussi, ouais. C'est... Ah, j'ai plus son nom.
Mais grave, oui, voilà, c'est lui, là.
Mm-hmm. Oui, oui. Le vieux.
Qui est pas vieux dans Princess Bride.
Inigo Montoya.
Exactement, c'est Inigo Montoya. T'as fini, Amric ?
C'est terminé.
Du coup, parce que...
Mandy
Patinkin. Cette nouvelle, elle m'a fait comprendre l'attitude de Willy, en fait, dans la nouvelle précédente. De ce besoin d'expier ses péchés en redevenant aveugle, sûrement par rapport à ce qui s'est passé dans ce village et tout ça. Le côté, c'est pas normal que je m'en sorte aussi bien par rapport à tout ce qui a pu se passer, par rapport à d'autres,
le syndrome
à ce qu'on a fait, etc.
Mais
il y a le syndrome du survivant, et puis là, il y a aussi peut-être quelque chose de, on a fait des horreurs, il faut expier nos péchés. C'est pas juste on a survécu.
Oui, il faut payer en plus.
Il faut payer et c'est pas normal que j'ai retrouvé la vue avec ce qu'on a fait. Enfin, c'est
il y a un
ce
peu
que
de ça dans
penser,
le syndrome de survivant. Hein. T'as beaucoup d'autoflagellation.
Ouais.
Ouais, mais là, on est quand même à un niveau où quelque part ils méritent aussi avec les ordres qu'ils ont suivis, avec toutes les conneries qu'ils ont faites entre Carole et le Vietnam. C'est pas juste le traumatisme d'être.
Il a fait de la merde. Il a fait de la merde.
Parce que pour moi, le trauma du survivant, c'est aussi d'être le dernier qui reste. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai survécu aux autres ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on est quand même vraiment dans le côté j'ai dépêché à expier. Il faut que je m'en sorte. Quoi.
Mais ouais, du coup, c'est cette nouvelle qui m'a fait comprendre la précédente un peu mieux. Je trouve que c'est la plus dure des trois parce qu'on rentre dans le détail de ce qui s'est passé au Vietnam.
Oui, j'ai zappé toutes les descriptions de combats, etc. Mais il y a deux, trois passages, en fait, à chaque fois qu'il revient vers l'accident des hélicoptères et puis l'évacuation derrière. Il y a à chaque fois les descriptions. À chaque fois, il rentre de plus en plus dans les détails. Comme si, à chaque fois, Sully accédait à des souvenirs plus nombreux et plus précis.
C'est ça s'éclaircit au fur et à mesure.
Je regardais au cas où King se soit pris d'une petite frénésie. J'écris que sur la guerre et je l'écris très bien et ça met tout le monde mal à l'aise. Mais un élève doué, en fait, c'est 82, la première parution. Donc c'est bien avant. Quoique.
Oui, effectivement.
Quoique, il faut que je vérifie parce que cette nouvelle. Non, première parution 99, juste avant le roman. Ok. Enfin, le recueil.
Mais je trouvais que ce côté, du coup, ce que je dis, ouais, des plus durs, sur le côté, c'était des gamins, on les envoyait en enfer, et quand ils sont revenus, leur vie, c'était de la merde.
Ouais, mais c'était tout cassé, quoi.
Il y a petite promo pour un autre podcast du label Podcut. Il y a un épisode de La Confiture, j'ai plus en tête, je viens de leur demander de me donner le titre, où ils parlent de comment ont été faits les recrutements à l'époque pour le Vietnam, comment ça a évolué au cours du temps, etc. Et comment ils ont envoyé là-bas vraiment, outre le fait que c'était d'envoyer des gens de manière générale, mais en plus ils ont envoyé des personnes handicapées mentales qui comprenaient vraiment pas ce qu'elles faisaient là, pourquoi elles étaient là, ce qu'il fallait faire, comment.
C'est pas dans leur épisode sur les tests de QI où ils parlaient de ça ?
Peut-être que c'est sur les tests de QI, ouais. Et c'est récent. C'est ça. Et c'était très. Et du coup, en fait, d'avoir entendu cet épisode il y a pas très longtemps et puis d'avoir lu cette nouvelle après, je me projetais encore plus avec eux et dans leur. Qui pouvait faire partie de cette équipe, quoi.
C'est l'épisode du 11 février 2022 qui s'appelle « Goût, cervelle d'oiseau et soldat désert ». En effet, cervelle d'oiseau sur le QI, il me semble, et soldat désert sur la conscription guerre du Vietnam.
Ah bah, Guillaume, il vient de me répondre. Et c'est exactement ça.
Bravo.
Super. Merci Internet et tout
si
ça parce que
chose,
c'est extrêmement bien référencé sur le Ocha du label podcast. Vous pouvez écouter tous les podcasts du label. Dont la
non mais ouais, exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que tout le monde a tout dit sur cette nouvelle ?
Oui.
C'est bon pour
oui.
moi.
Oui. Eh bien, je vous propose que l'on passe au prologue, et cette fois, c'est Grand Poil qui va nous... qui va clôturer...
L'épilogue.
Oui, épilogue, pardon. Oh, le prologue de la fin.
Si on lit comme manga, c'est le prologue.
Vous voulez une anecdote?
Allez,
oui. Vas-y. Les anecdotes de Urde.
Mais elle est mignonne, celle-là. J'étais chez mes parents donc ce week-end, et tout d'un coup, je vois sur mon lit un manga de... merde, je sais plus le nom... d'un anime qui vient de sortir sur Netflix sur un romain qui fait des termes...
Ah, Romae.
Oui, exactement. Et je vois ce truc, et je me dis, mais what? Et je vais vers mon père, puis je dis, mais c'est toi qui l'as acheté, ce truc? Enfin, c'est toi? Il me dit, ouais, et je vois qu'il y a le marque-page, genre les 25 premières pages, puis il m'a dit, ouais, j'ai lu, mais ça me plaît pas trop. Puis je regarde, puis je lui dis, mais tu sais que les mangas, ça se lit à l'envers? Puis
aïe, aïe, aïe.
Il me dit ah d'accord, et du coup je lui montre et il était là ah.
Bah, quand tu ne sais pas
oui mais c'est mignon tu vois,
pourtant et, c'est pas genre écrit dans tous les livres,
il me semble que c'est écrit à la dernière page, vous commencez par le mauvais côté,
mais je crois qu'il lit forcément maintenant. J'ai pas regardé. Mais bref, j'ai trouvé ça rigolo et du coup il m'a donné je pourrais le regarder en même temps.
Il des mangas.
Non, mais je pense qu'il a dû faire une erreur en fait parce que
il
la couverture
spontanément surtout.
Non, mais je pense qu'il s'est gouré parce que la couverture, je te dis, ça va parler de romains et tout. Tu vois, c'est une statue romaine. Donc je sais pas le fin mot de l'histoire, mais voilà, j'ai trouvé ça mignon.
On veut savoir.
Ouais.
Faudrait que je lui demande, mais
on fera un HS du roi Steven pour débriefer cette histoire.
1999. Amène-toi, mon salaud. Rentre à la maison.
On retrouve donc notre vieil ami Bobby Garfield à l'enterrement de Sully John, 40 ans après sa dernière venue à Harwich. C'est l'occasion pour lui de faire un petit voyage souvenir dans sa ville, retrouvant même son restaurant favori toujours présent, le Colony Diner. Quelques frissons aussi en repensant aux voitures étonnamment décorées et en croisant une marelle somme toute bien classique. Tout va bien, se dit-il. Bobby poursuit son chemin vers son ancienne maison, toujours là. Repense à Carole et se dirige ensuite vers chez elle. Il se souvient que sa maison a brûlé et que Carole est morte depuis longtemps. Il continue son périple maintenant nocturne vers le stade de baseball, repensant à Ted Brotigan et à son amour pour lui. Bobby repasse près de là, devant le bosquet où l'avait entraîné Carole. Il se souvient aussi des trois brutes qui les ont tabassés à ce moment-là. Et pendant qu'il écoute Radio Nostalgie dans son bosquet, une apparition comme un fantôme l'interpelle. Il voit Carole, mais on comprend qu'elle a changé de nom. Ce qui n'est pas très choquant vu ce qui s'est passé dans la nouvelle précédente. La femme qui n'est pas Carole l'embrasse et confirme l'espoir secret de Bobby. Si elle était vivante, elle serait venue au funérailles de SG, comme à cet instant. Il se dévisage. Les années et les luttes n'ont pas épargné Carole, mais elle a su changer et se faire discrète. Elle habite maintenant à Poughkeepsie.
Je la rêve.
Poughkeepsie.
Et est prof à l'université de Vassar.
Encore une belle ref de boomer, ça.
Oh putain, oui.
J'ai pas la ref.
Ali McBeal.
Ali McBeal.
Ah, je m'en souviens pas.
L'associé.
De Ali McBeal, oui, mais pas de.
C'est un des chefs, un des associés qui arrive pas à prononcer le nom de la ville.
Celui qui joue le mignon de Viggo dans SOS Fantôme, notamment. Mais j'ai plus son nom.
Le grand ou le petit?
Dans Ali McBeal.
Le petit. Ouais,
ok. Dans Ali McBeal, ouais.
Ouais. Je veux dire, il y a le grand, le petit et le beau, tu vois, à la limite, dans Lee McBeal, il y a trois gars. Le grand, le petit et le mort aussi, on peut l'appeler. On s'en est jamais remis.
Le petit, non, ce n'est pas remis.
Carole, elle, a appris la mort de SG par le journal. Bobby, lui, l'a appris de Ted Brotigan, et il a l'air de penser qu'il savait que Carole serait là. Carole nous parle quand même rapidement de ses jeunes années, et elle s'est laissée entraîner dans des luttes par un homme qui a su la manipuler. Manipuler sa colère de jeunesse et la diriger dans la violence. Mais elle ne veut plus revenir là-dessus. C'est derrière elle, tout ça. Elle préfère revenir à Ted, qui devrait avoir plus de 100 ans s'il était encore en vie. Bobby avoue que le temps ne semble pas avoir beaucoup de sens pour les briseurs, même s'il ne comprend pas ce que c'est. Et comment Ted a pris contact avec Bobby? Celui-ci a reçu un paquet FedEx de la part d'un exécuteur testamentaire de SG, et le paquet contenait son vieux gant, volé par Willy et ayant fait le Vietnam. Ce même vieux gant que Sully a enfilé au moment de sa mort contenait l'adresse actuelle de Bobby, et c'est comme ça qu'il l'a reçu. Cette adresse est écrite de la main de Ted. Aucun doute pour Bobby. C'est compliqué cette histoire, mais un autre indice pointe dans la direction d'un petit voyage temporel dans les années 60, où Ted aurait chopé le gant et laissé la page de titre comme neuve de Sa Majesté des Mouches, d'une édition des années 60.
Vrai.
Ted a aussi laissé un mot pour Carole et un picto. Cœur flèche, alors c'est cœur fléché plus symbole de paix égale information. C'est autant un message pour elle que pour Bobby, pour le prévenir qu'elle serait à l'enterrement.
Mais pour nous, ça veut dire quelque chose ou pas?
Oui, c'est en lien avec la deuxième nouvelle.
Si, le symbole de paix, oui. Cœur
non,
flèche.
Non, mais si l'ensemble, c'était entre, c'était un truc entre Carole et le héros de
et
la Pete. Deuxième nouvelle. Non.
Et Pete?
Non, et Pete, ouais, c'était.
Oui,
c'était
parce qu'elle lui, en fait, elle lui donne le livre avec ce picto.
En fait, il y a toute une vanne entre eux sur le fait, sur information en lien avec une série qui s'appelle Le Prisonnier. Et c'est l'époque du symbole de paix, donc je suppose que, bon, voilà, c'est une private joke entre eux.
Si je me trompe pas, c'était vraiment, elle l'avait dédicacé avec ça, qui était justement le truc entre eux. Justement, là, j'ai dû faire des recherches parce que, voilà, pour la théorie, c'était un truc que je voulais un peu reprendre.
Okay. Ouais.
Mais du coup, ça, c'est un truc spécifique, Carole. C'est pas.
C'est pas. Bah, Carole, quand elle le voit, elle pleure, en fait. Voilà.
Ouais.
Et finalement, en dernier symbole de ce passé, Bobby déposera le gant dans le bosquet parce que là est sa place. Et nos deux amoureux regardent le soleil se coucher, enlacés et en écoutant les Platters. Happy end, non?
Non.
Si.
Si.
Bah si.
Si, un peu. Quand même.
Non, c'est trop. Je sais pas, je trouve que c'est un happy end triste.
Mais là, ils vont louer une chambre au motel room, ils vont rattraper le temps perdu, puis après, ils vont partir chacun de leur côté. C'est un super week-end.
Mais ouais.
Non, moi, c'est bien comme pour boucler la roue. Le cas est une roue, je vous rappelle.
Oui, bien sûr, je comprends. Et puis c'est cool, Carole, elle est pas morte finalement. C'est plutôt sympa, mais je sais pas. Tu vois, il y a un petit côté tous ces malheurs, toute cette tristesse, tout ça pour ça. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux là, tous les deux, chacun dans leur vie? Oui, Bobby il a l'air heureux quand même dans son métier avec sa femme et ses gosses. Mais
et rappelle-toi ce qu'a dit Philippe Corti.
Et puis
la vie est injuste.
Quoi? Mais j'ai pas la ref.
Ah parce que t'étais pas là. J'ai déjà fait cette blague il y a deux épisodes.
Ah non, j'étais pas là.
Mais j'étais là, mais je m'en souviens pas non plus.
J'en ai loupé des choses.
Ce n'était pas une grande perte.
Des blagues
non,
de qualité.
Non mais bon, je sais pas. Non, cette fin, puis ils sont là, l'enterrement de leur pote, et puis non, bon, j'aime pas. C'est le cafard cette fin, comme tout le reste.
Oui, t'aimes pas. Enfin, c'est.
En même temps, t'écoutes Renaud.
C'est pas une critique envers King, c'est juste que ça te crée des émotions.
Ah non, c'est pas j'aime pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est mal écrit.
C'est pas un happy end.
C'est pour pas que les gens te disent
oui, que non, t'es salé quoi. Non, t'es pas salé. Oui. T'es juste triste. Et c'est à mon avis,
c'est mes larmes qui sont salées. Pas mon cœur.
Et bon, du coup, c'était un bon recueil de nouvelles et qu'il arrive à tout raccrocher à la fin comme ça, à avoir bien tout emmêlé comme il fallait. C'était, enfin, moi, je trouve qu'en plus, c'est assez impressionnant d'un niveau d'écriture.
Et c'est quoi votre nouvelle préférée?
La première.
Ouais, la première, quand même.
Oui, la première.
Moi, j'hésite.
Et celle-là.
La première, elle est très dans ce que King fait mieux avec la nostalgie de son enfance, le corps, tous ces trucs-là, quoi. Un peu de ça, un peu de.
Moi, je dirais la dernière et Will et l'aveugle, qui est un peu à part.
Non, moi, ça serait la 2 et la 4. Ouais. Comme quoi. Bah, c'est bien, on a tous trouvé notre bonheur là-dedans.
Ouais. Oui. Ouais.
Je vous propose, si plus personne n'a rien à ajouter, qu'on passe à la suite et à la place dans l'œuvre par Émilie.
Earth Toxine Atlantis en VO, Cœur perdu en Atlantide en VF, c'est le 42e livre publié de Stephen King et son 6e recueil. En français, il a été traduit par William Olivier Desmond pour Albin Michel, ça, Aymeric l'a dit tout à l'heure. Le livre audio en VO, il est lu par l'acteur William Hurt et par King lui-même. À noter que William Hurt, qui est décédé très très récemment en mars 2022, il a joué le rôle principal dans l'adaptation de la nouvelle Petit Soldat de Stephen King, qui se trouve dans la mini-série Rêve et Cauchemar.
William Hurt est mort ?
Oui.
Je viens de l'apprendre.
Ah merde ! Ouais, très bah bien. Ouais, très récemment, le mois dernier.
Attends,
côté mort tragique, je pense qu'on va reparler dans les adaptations.
Ouais, mais je crois qu'en plus, mais je crois qu'on l'avait déjà dit en plus qu'il était mort, William Hurt.
Ouais, moi, vu que j'étais pas là les deux premiers, je vais sans doute faire des répètes, mais je récapitule. Ici, William Hurt, il dit la première histoire et les deux dernières. Le livre, il est dédié à Joseph, Léonora et Ethan. Alors, Joseph, c'est un de ses fils, qu'on connaît sous le nom de Joel. Léonora, c'est sa femme de l'époque, qui est aujourd'hui son ex-femme. Donc, à Joel, hein, pas à Stephen King.
Ah, j'allais dire, attends, quoi?
Ouais, non.
William Hurt est mort, et Stephen King avait une autre femme avant Tabitha. Mais quand, puisqu'ils étaient déjà ensemble à la fac?
Non, il est polygame, en fait.
Peut-être, mais du coup, c'était un scoop. Enfin, moi, je le savais pas. Trop d'infos.
Et Ethan, c'est l'enfant de Joel et de Léonora. C'est donc le premier petit-fils de King. Le roman, il est resté 16 semaines sur la New York Times best-seller list avec un meilleur classement à la 4e place qui a été atteint le 3 octobre 99. Le Publishers Weekly le classe à la 6e place des meilleures ventes de romans aux États-Unis en 99. Il a aussi été nommé au prix World Fantasy du meilleur recueil de nouvelles, au prix Locus du meilleur recueil de nouvelles, terminant la 5e place, et au prix British Fantasy et au prix Bram Stoker du meilleur recueil de nouvelles.
C'est ouf parce que j'en avais jamais entendu parler de ce livre.
Pareil.
Ah oui.
Mais alors je pense que c'est l'époque où j'ai commencé à en lire.
Ouais, mais je pense que c'est aussi ça parle. On n'en a pas entendu parler, ok, mais ça parle beaucoup plus aux Américains, pour le coup.
Je pense qu'il y a de ça. Je pense que en France, de toute façon, les Kings, de façon générale, les Kings dont on entend le plus parler, c'est ceux qui non seulement ont été adaptés, qui en plus ont eu des adaptations à succès. Et c'est pour ça, moi, parmi mes romans préférés, il y a Blaise, qui pour le coup est sous le nom de Richard Bachman et que personne ne cite jamais, dont on n'entend jamais parler, même dans les groupes de fans, tu vois, il y a un groupe Facebook avec 13 000 fans et pour voir une mention de Blaise, il faut vraiment se lever tôt, et t'en as une ou deux par an. Et je pense que Cœur perdu en Atlantide, l'adaptation, elle est pas du tout connue en France.
Parce qu'elle est nulle. Et j'en parlerai après.
Non, on sera pas d'accord alors. Mais on en parlera après. Alors, Cœur perdu en Atlantide, c'est donc deux romans courts, des novellas, et trois nouvelles, dont un épilogue, qui s'enchaînent chronologiquement et qui partagent les mêmes personnages à plusieurs époques de leur vie. Il y a plusieurs particularités éditoriales, comme souvent avec les recueils de nouvelles, en fait, c'est un micmac de plusieurs trucs qui ont été publiés à gauche à droite. En fait, la troisième histoire, Willy l'aveugle, elle a été originalement publiée dans Anatheus, The Final Issue, en 94, et elle est apparue plus tard avec quelques petites révisions dans une auto-parution de 97, intitulée Six Stories. La version qui est publiée dans le recueil là, elle a été largement révisée depuis ces deux publications. Donc il l'a complètement revue pour l'intégrer. Une partie, un tout petit bout de la quatrième histoire, Pourquoi nous étions au Vietnam, a été éditée sous format d'un petit fascicule auto-publié et offert le 6 avril 99 à une soirée à New York qui célébrait les 25 ans de carrière de King. Lui aussi. En fait, je sais plus dans quel épisode on en avait parlé. King, il avait, je pense pas qu'il le fasse encore, mais dans des grandes soirées comme ça où un peu tout le gratin est invité, il a une maison d'auto-édition qui s'appelle Filtrum Press, je crois, dont on avait déjà parlé, dans lesquelles il refile des petites nouvelles inédites comme ça, et on sait qu'il y a des choses qui ont été publiées, mais uniquement via Filtrum Press, donc uniquement données au gratin new-yorkais à ces soirées, et qui aujourd'hui, je crois qu'il y avait, que c'était, un bout du prologue de Shining qui avait été perdu comme ça parce qu'il l'avait juste trop filé en disant voilà, et puis t'as 50 copies et puis tu les revois jamais parce que bah, tu sais, comme quand tu rentres chez toi d'une soirée et quand t'as filé un flyer, bah tu le balances quoi, tu t'en fous en fait. Et aujourd'hui ça vaut de l'or, il y a des histoires comme ça qui sont perdues. Et donc ce bout d'histoire de la quatrième nouvelle, il a aussi été largement revu et corrigé avant d'être intégré dans le recueil. Et enfin, la cinquième histoire, elle a été rajoutée plus tard, après même que le premier manuscrit ait été envoyé à l'éditeur. C'est vraiment, pour le coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est un épilogue, parce qu'il l'a vraiment rajouté à la toute fin, en se disant, en fait, non, il manque quelque chose.
Pour finir de relier tout ça, quoi.
Alors ouais, qu'en fait, exactement. Est-ce qu'il manquait vraiment quelque chose?
Bon, oui.
Je laisse la question en suspens.
Pour moi, clairement, ça aurait pas du tout été la même expérience. Donc, enfin, bref.
Non, mais... C'est une très bonne réponse.
Quand King il a commencé à travailler sur la première nouvelle qui compose Cœur perdu en Atlantide, il travaillait en même temps déjà à l'époque de sur Sac d'os, juste pour resituer un petit peu dans la timeline de la bibliographie. La première histoire du recueil était trop courte pour un roman et trop longue pour une nouvelle. Rappelons que c'est lui qui a popularisé le format des novellas, ce qui est un hybride entre la nouvelle et le roman. Ça faisait longtemps qu'il avait envie de parler des années 60. Sans forcément penser à publier le tout, il a quand même commencé à imaginer l'histoire comme étant reliée à d'autres pour faire un ensemble cohérent. Il a donc écrit la deuxième histoire et repris à travailler les autres dont je parlais pour au final en faire ce qu'on connaît. Sa volonté, elle est dictée directement via le titre et la référence à l'Atlantide, qui est, rappelons-le, une cité prospère engloutie. C'était de montrer tout ce que sa génération aurait pu faire, mais où elle a échoué. Et c'est là où on disait tout à l'heure, on bascule dans le King qui dénonce et puis qui fait de la politique et du social et qui sort un peu des monstres sanguinolents, quoi.
Bah, tu vois, moi, voilà, ce côté cité prospère engloutie, c'est ce que je ressens à la fin.
c'est le but, moi, okay, de ce que pom. J'ai compris, ouais, en fait.
Bloop, bloop.
Ouais. Oui.
Donc c'est ça, ça donne une suite d'histoires politiques, sociales et engagées où King dénonce les mauvais choix de l'Amérique après les 30 glorieuses et notamment la guerre du Vietnam, ça on vous l'aura pas caché, contre laquelle il a manifesté, et le matérialisme. Pour la partie guerre, en fait, il raconte le point de vue de ce qui se passait en Amérique à cette époque, car lui-même n'y est pas allé en raison de plusieurs soucis de santé. Tout à l'heure, on a cité pieds plats, myopie, hypertension, et il y a aussi les tympans percés. Alors ça, je sais plus pourquoi ni comment, mais c'est une info que j'ai retrouvée dans plusieurs biographies, donc qui, a priori, pourrait être sûr, mais en tout cas, il n'a pas fait la guerre du Vietnam, et ça se ressent surtout dans Chasse-cœur en Atlantide, où il raconte lui-même sa propre jeunesse à l'université du Maine et son activisme contre la guerre du Vietnam. Je sais que sur Internet, si on cherche, on trouve des photos de lui en train de manifester avec des panneaux contre la guerre du Vietnam. Et il y retranscrit aussi les interminables parties de cartes qu'il faisait à cette époque, renforçant l'aspect très autobiographique de cette histoire. Et enfin, pour l'aspect dénonciation du matérialisme, en fait, à peu près à la même époque, en 2000, il publie l'essai « Écriture, mémoire d'un métier », dans laquelle il y a une citation qui est très aimée des fans et de beaucoup de médias, qui dit « On avait une chance de changer le monde et on a préféré le téléachat ». Donc déjà, à l'époque, on retrouvait le King un peu sarcastique, voire parfois un peu aigri, qu'on retrouve aujourd'hui sur Twitter.
Oui, hier, il a fait un tweet disant que l'Amérique était un stand de tir.
Ouais, ouais. Mais il a fait. Faudra un jour qu'on commence à s'occuper de ses essais. Il a fait un essai sur la régulation de la circulation des armes à feu aux États-Unis, qui est un très très bon essai. Ouais, exactement, qui est paru en français dans le magazine America il y a 3 ou 4 ans, je dirais, qui à mon avis se trouve encore. Mais ouais.
Il est paru en français parce que moi il y a tout un passage que je me suis tapé en anglais alors que j'y pompais rien pour un épisode du Roi Steven. Je savais pas qu'il existait en français.
Ouais, il est paru en français.
J'aimerais bien le lire.
Ben je l'ai, je pourrais te le prêter, mais peut-être qu'il se trouve encore.
Moi, je vais essayer de voir. On en reparle après.
Ouais, dans le magazine America, et si vous cherchez l'info, okay. Elle est sans doute sur le site stephenkingfrance.fr.
Très bien, j'irai voir.
Pour plusieurs critiques proches de King, ce livre, il parle surtout de la culpabilité de survivance. Du coup, je vous ai un peu embêté avec ça là-dessus sur les dernières nouvelles. C'est un des premiers livres de King à se détacher complètement de l'horreur et à entrer dans l'émotion et à traiter aussi directement des sujets de société très politiques. Il y a aussi beaucoup de, j'ai retrouvé beaucoup de critiques qui parlaient de ce roman comme étant assez de ce recueil comme étant assez désordonné, mais comme le dit George Byam, qui est un spécialiste de King dans son livre The Stephen King Companion, c'est en miroir à la guerre du Vietnam qui elle-même était désordonnée. Et ça a permis aussi à d'autres critiques de réaliser, grâce à ce recueil, que King ne pouvait plus être contraint à la case étriquée de auteur d'horreur. Mmh. Et j'ai envie de dire, il était temps.
Bah oui. Enfin, mmh. Y a Bram Stoker, encore une fois, quoi.
Ouais, ouais. Pour la partie autobiographique, j'en parlais pour la deuxième histoire. On trouve aussi beaucoup d'éléments de la jeunesse de King dans la première. Qui est très très proche de l'histoire Le Corps, qui est adaptée en film sous le nom de Stand By Me. Peut-être que ça parlera plus à certaines personnes. Si vous avez écouté notre épisode à ce sujet, vous savez à quel point Stand By Me est inspiré de sa propre enfance. Et dans cette première histoire qui se passe un an après les faits du corps, difficile de pas faire le parallèle avec King. Déjà, on a Bobby Garfield qui a une douzaine d'années comme King à l'époque et qui vit seul avec sa mère, sachant que King vivait à l'époque avec ses frères et sœurs, seul avec sa mère parce que son père s'est barré et plus jamais revenu. Il se lie d'amitié avec des enfants avec qui il joue en forêt ou le long du chemin de fer, comme dans Le Corps, et surtout comme un des événements les plus traumatisants de sa propre enfance, c'est-à-dire un de ses petits camarades qui s'est fait happer par un train sous ses yeux. Donc évidemment, n'a pas survécu. Voici venu le temps des connexions. Si on lit Cœur perdu en Atlantide, c'est parce que on est aussi en parallèle en train de faire La Tour sombre. Il y a des choses qui parlent déjà. Alors moi, j'ai fini de relire le tome 7, Grand Poil, et à l'heure où on parle, en plein dans la fin du tome 7, enfin de la deuxième moitié
j'ai
du tome
les,
7.
J'ai relu les refs.
J'en suis à 10%, moi, j'en suis à 10%.
Voilà, donc on avance dans le tome 7, donc il y a des choses qui ont parlé à mes camarades, il y a des choses qui leur parlent pas encore, donc je vais pas spoiler ici, c'est pas le but. Juste, c'est quand même important de relever que la première nouvelle, Crapule de bas étage en manteau jaune, c'est une histoire qu'on peut directement placé dans le cycle de la Tour sombre, parce qu'en fait les hommes en manteau jaune qui poursuivent Ted Brottingham sont des serviteurs du roi cramoisi. Ils le pourchassent parce qu'il est un briseur de rayons qui s'est échappé. Et le roi cramoisi, il veut l'utiliser contre son gré pour poursuivre sa volonté de briser les rayons de la tour et faire sombrer les mondes. Si Ted est capturé, il semble qu'il réussisse à s'échapper puisqu'il enverra plusieurs années plus tard à Bobby une enveloppe remplie de pétales de rose, affirmant le lien de l'histoire avec la tour. Et Bobby, il réalise à cet instant, et là je cite, et moi j'avais retrouvé que la citation en VO, donc j'ai fait une traduction grossière, « Il existe d'autres mondes que ceux-ci, des millions qui tournoient autour de la tour. » Et on n'en sait plus sur ce qu'il advient de lui quand il se fait capturer dans deux histoires du cycle, c'est-à-dire le septième tome, dont on parlera un peu plus tard dans Le Roi Stephen, mais aussi dans Territoire, qui est coécrit avec Peter Straub, parce que oui, telle histoire, Territoire étant le deuxième tome de Talisman, il se situe aussi dans l'univers de la Tour sombre, et après ça devient compliqué si je développe plus, mais tout est lié à la tour, quoi. C'est, en gros, c'est ce qu'il faut
tout
comprendre.
Sachant que les chemins mènent à la tour.
Oui, non, mais c'est ça. Sachant qu'il y a aussi des mentions du cas et du cas-tête et d'autres encore références très très évidentes à la tour sombre quand on connaît le palabre et le haut-parler et non pas le haut-parleur. Et enfin, pour définitivement enfoncer le clou, le nom complet de Ted, c'est Ted Stevens Brottingham. Et je vais vous laisser compter combien ça fait de lettres, tout ça.
19 de tête.
19.
Oh là là. Je vais pas compter, ouais. Mais si ça fait pas 19, je vois pas l'intérêt.
Ça fait 19. Donc, si vous avez lu La Tour sombre, vous comprenez l'importance de ce chiffre qu'on retrouve à peu près dans toutes les histoires de King de toute façon. Ensuite, un autre lien avec La Tour sombre, et on sait pas trop si c'est un hasard dû au chapeau magique des noms ou pas. Carole, elle se fait maltraiter par un certain Harry Doolin, du même nom de famille de Molly et Eamon Doolin dans Les Loups de la Cala, le tome 5 de La Tour sombre.
C'est qui? Je me souviens pas de qui sont ces gens.
C'est des jumeaux, une paire des Loups de la Cala. C'était pas les principaux enfants qu'on ait vus, mais il y a des Doolin déjà dans la Cala.
Ça sent un petit peu le chapeau des noms, ça, quand même.
C'est possible, hein. C'est possible.
D'accord, ouais.
c'est relevé. Voilà. Je mets quand même un doute sur le fait que ce soit une vraie Raf à part. Après, après, sachant que de toute façon à cette époque-là, il est en train d'écrire La Tour Sombre. Enfin, il est. C'est pour ça que ce roman, il est très connecté. Enfin, ce recueil, il est très connecté à La Tour Sombre parce que il est vraiment en train de construire la fin du cycle. Il a revu les quatre premiers tomes et donc il a peut-être encore des noms en tête et peut-être qu'il se mélange un peu les pinceaux. On n'est pas à l'abri. Dans la deuxième nouvelle, Chasse-cœur en Atlantide, Carol est amenée à participer à un attentat terroriste par un dénommé Raymond Figler, potentiel pseudonyme de Randall Flagg. En tout cas, ce sont les mêmes initiales. Et étant donné le lien du début du recueil avec La Tour Sombre, c'est un peu compliqué de douter le fait que Flagg traîne dans les parages.
Ça, c'est une info intéressante.
En fait, il y a beaucoup d'antagonistes chez King, des méchants et souvent des beaucoup de terroristes ou beaucoup de d'activistes très dangereux. Je sais plus dans quelle autre histoire il y en a un autre comme ça qui ont des initiales en RF. Donc tu te dis si c'est pas Randall Flagg, c'est au moins quelqu'un qui potentiellement est sous l'influence de Randall Flagg.
Ben, en plus, c'est un sale type qui l'a manipulé et qui a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu.
Bah ouais, et c'est très
parce que pour le coup, et pour le coup, lui, on ne dit pas qu'on a retrouvé son sang dans la maison qui a brûlé. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc effectivement,
il s'évapore. Il vient, il fout la merde, il s'évapore.
Comme Randall de par hasard, la bombe s'est à mal sautée. Tout ça, oh là là, jamais de la vie j'aurais pensé. Bon, pas, surtout parce que je l'ai lu en diagonale, mais quand même.
Et dans la cinquième histoire, alors ça, j'ai pas relevé grand poil dans ton résumé, si tu le disais, je crois pas que tu le disais, donc je mets un doute dessus que vous allez me confirmer. On apprend que Raymond Figler a appris un tour à Carol, il lui a appris à devenir Dim. Est-ce qu'on a une référence à ça ou pas? Parce que j'ai eu un doute. Je l'ai lu, alors je sais plus dans quel, je crois que c'est sur un Reddit que je l'ai lu, et je pense que c'était un peu tiré par les cheveux, et
bah, tu sais quoi, je vais faire une recherche par entier, j'ai sous les yeux.
Peut-être qu'il y a un truc en VO qui a pas passé la traduction sur le fait qu'elle ait appris à se faire discrète.
Ouais.
Mais le mot Dim qu'on retrouve effectivement souvent dans La Tour Sombre, là.
Je crois que c'est, genre, je crois que je l'ai lu dans ce que je suis en train de lire là, parce que vu que j'ai pas fait mon deuil de la fin de la relecture de La Tour Sombre, je suis en train de lire toutes les études qui sont sorties sur La Tour Sombre et notamment les livres de Beth Vincent qui pour le coup sont vraiment très bien mais sont en anglais. Et quand il résume, en fait il a un gros chapitre sur toutes les histoires qui sont liées à La Tour Sombre mais qui sont très liées à La Tour Sombre comme notamment Cœur perdu en Atlantide. Et je crois que c'est lui qui a mis ça dedans.
En tout cas, dans la version française, il y a pas le mot Dim n'apparaît pas.
Okay. Je viens de faire une recherche par mots-clés, et effectivement, ça n'apparaît pas.
Ok, bah, j'irai rechercher quand même, mais bon,
faut,
alors à mettre
peut-être choper la VO. À mon avis, il faudrait confirmer avec la VO parce que ça pourrait correspondre. Effectivement, on apprend qu'elle a appris à se faire discrète pour pouvoir justement passer inaperçu, changer de vie si au besoin, quoi.
Après, c'est peut-être Bev Vincent qui lui interprète cette info-là comme il lui a appris à devenir Dim. Mais j'irai relire le truc en VO. En plus, c'est pas très long.
Elle dit. Alors, je connais bien l'art de passer inaperçu, un art qu'on m'a appris il y a bien longtemps, l'art d'être de la couleur des murs.
Ah ouais, donc ça serait intéressant de voir en VO ce que c'était.
Ouais, ou c'est une interprétation, comme tu disais, de...
Ouais, est-ce que c'est le traducteur qui a pas compris ce que c'était dit, mais qui du coup l'a traduit en mode « je suis caméléon » ou est-ce qu'il y a Dim en VO ? Bon, à vérifier, et du coup,
est-ce que ça serait pas
est-ce
que ça serait pas un petit point culotte, l'air de rien? Avec ça.
Ça, c'est vrai. Et vous aurez la réponse dans le dossier multivers sur le site stephenkingfrance.fr, n'est-ce pas? Parce que j'irai vérifier l'info avant de la rajouter. Salut, c'est Émilie du futur. Alors, j'ai pu vérifier en version originale et il se trouve qu'en anglais, il est bien dit mot pour mot par Carol que Raymond Figler lui a appris à devenir Dim. Une référence qu'on perd donc complètement à la traduction. Voilà, c'est tout, je vous laisse reprendre le cours normal de votre épisode. Pour terminer, on a des mentions des régulateurs, comme le roman du même nom paru sous le nom de Richard Bachman, qui lui-même est ô combien connecté à La Tour Sombre, notamment à cause de son double désolation, et ça j'en dirai pas plus. Et enfin, dans le recueil, on retrouve également la ville de Derry, qu'on ne présente plus, qui est une des villes fictives les plus présentes dans l'œuvre de King. Voilà. C'est tout pour moi et c'était déjà pas mal.
Ouais. C'était déjà pas mal.
J'ai double génie. Ouais, mais c'était j'étais pas là aux deux derniers épisodes, il fallait que je rattrape.
Bah,
que
oui,
je peux parler, mais bon.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Nine.
Eh bien, nous allons passer aux adaptations. Alors, pour les adaptations, il existe un film qui adapte la première et la dernière nouvelle. Elle est relativement fidèle d'après le résumé que j'en ai lu parce que je ne l'ai pas vu, à l'exception des références à la tour sombre qui saute, ce qu'on peut comprendre en même temps dans un film pris tout seul, il n'y avait pas de raison. Donc en fait, Ted n'est plus poursuivi par des ignobles du roi cramoisi, mais par des agents du gouvernement. Mais ça garde l'idée. La fin diffère aussi, mais du coup, je sais pas si on parle de la fin du film maintenant. Ou pas.
Fais comme tu le sens.
On peut, si tu veux. Moi, ce que j'ai trouvé dommage en regardant l'adaptation, c'est que, alors qu'il vire les références de la Tour Sombre, ça, effectivement, ça me choque pas, mais qu'on remplace ça par des agents du gouvernement et qu'on perde un peu le côté horrifique de ces bestioles qui poursuivent. Ils auraient pu tout à fait garder le côté horrifique sans avoir besoin de faire de ref à la Tour Sombre.
Elle est nulle, cette adaptation.
On en parle après. Julien, tu te calmes.
J'ai pas spoilé. J'ai dit, elle est nulle.
Non, mais j'avoue que, ouais, si on avait mis du surnaturel, bon, il y en a déjà un petit peu, hein, mais genre.
Il y en a tout petit peu avec Ted, mais c'est genre, vraiment la seule chose, quoi.
Ouais, mais je pense que si on avait mis des voitures qui ont des tentacules, ça aurait pas été.
Ça aurait été mieux.
Eh ben, si, ça aurait été mieux.
Non, mais ça aurait eu aucun sens, honnêtement.
Si même Hurle le dit.
Ouais, non, je trouve là, pour le coup, ça aurait été too much. Enfin, ça aurait été incompréhensible.
Cette adaptation, oui.
Non, c'est bon.
Cette adaptation qui s'appelle Cœur perdu en Atlantide en VF, Earth in Atlantis en VO, donc le nom du recueil, et Le vieil homme doué de clairvoyance en vécu, version québécoise, a été réalisée par...
Ah, excellent.
Vous ne le saviez pas,
hein. Non, c'est vrai, je n'étais pas allée chercher.
Mais quand je l'ai trouvé, j'étais trop contente.
Non, mais pour le coup, sorry not sorry, mais ça a plus de sens.
De toute façon, même Cœur perdu en Atlantide n'a pas de sens vraiment
sans le recueil
pour
complet.
Le recueil de nouvelles, quoi.
Ouais,
il y a surtout un sens à partir de la deuxième nouvelle. Dans la première, vraiment rien du tout. Parce que côté Atlantide, la société qui se casse la gueule, qui fait passer bon choix, on peut le retrouver. Et Cœur perdu, c'est les chasseurs.
Vous voyez, j'ai les cheveux longs maintenant. Je peux le faire.
Faire quoi? J'ai pas vu.
Bah, tirer par les cheveux.
Ah. Mais c'est ce que disait Émilie, ce recueil, il n'a de valeur que si tu lis tout. C'est pas comme les autres recueils où tu peux piquer une.
Ah, bah, la réelle, il a adapté une nouvelle trois quarts. T'en fais quoi, hein?
Moi, je le regarde pas. Je suis désolée. On fait tout ou on fait rien?
Non, mais donc, surtout, en plus, le titre en VF, il est une fois de plus pas bon parce que entre Cœur perdu en Atlantide et Cœur en Atlantide, comme ça aurait dû être la traduction littérale, c'est pas tout à fait la même chose. Et Cœur en Atlantide, ça veut juste dire, en fait, c'est des gens qui s'aiment d'une façon ou d'une autre, qui se retrouvent dans une société qui gâche tout. Qui gâche, parce que le message de King, c'est en fait, on avait les 30 glorieuses, on aurait pu faire un truc super et on a été des gros connards, on a vraiment rien branlé pour s'en sortir, quoi.
Putain.
C'est vraiment ce qu'il dit, hein.
Ça rappelle la gauche française.
Donc, ce film a été réalisé par Scott X en 2001. Pas X, la lettre X, c'est son nom de famille. H-I-C-K-S.
X.
On y retrouve entre autres Anthony Hopkins dans le rôle de Ted Brotigan et David Morse dans le rôle de Bobby Garfield adulte, David Morse que l'on a aussi vu dans Les Langoliers et que nous verrons un jour dans La Ligne Verte.
Ah.
Je le mets au futur puisque nous n'en avons pas encore parlé dans ce podcast.
Est-ce qu'on le verra au
zoo? Tout à fait.
Alors il y a une autre adaptation qui a été annoncée en 2016, elle aurait dû s'appeler Hertz et aurait dû être réalisée par Johannes Roberts. Le projet n'a jamais abouti, j'ai pas su trouver de raison à cet abandon vu que tout le monde était au taquet, même Steve. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve ça bien dommage parce que cette adaptation se concentrer sur la deuxième nouvelle, donc Chasseur en Atlantide en VF. Et ben moi j'aurais bien aimé voir ça.
J'avoue.
Voilà, rien d'autre sur les adaptations.
Je peux rajouter des trucs? Avant qu'on fasse un tour de table des avis.
J'allais dire, mais avez-vous des choses à rajouter?
J'ai plein de trucs à rajouter, je voudrais pas que ça fasse abuser, mais vu qu'en faisant mes recherches pour ma chronique, j'ai trouvé des infos sur les adaptations que j'avais pas vues ailleurs, j'ai noté.
Bah, vas-y.
Déjà, il y a un fait marrant qui est relevé par, attendez.
Par quelqu'un?
Mais non, mais par les deux journalistes français.
Mathieu Rostac et François Coe.
Ouais, qui ont relevé que ça sort la même année que Les Enfants du Maïs 7. Révélation. Et ça, c'était important de le noter.
Oui, effectivement. Je suis désolée d'être passée à côté de cette info.
D'accord.
Alors, une info très importante, c'est qu'au scénario, on retrouve quand même William Goldman, qui a fait à cette époque le scénario du film Misery, et qui fera plus tard le scénario de Dreamcatcher. Et en fait, on doit... Oui, bah, écoute, on peut pas tout bien faire. Hein.
Ouais, après, il partait d'un matériel assez compliqué, alors bon, il a pu.
Oui, c'est vrai. C'est pas si mal, étant donné la douleur qu'est le roman Dreamcatcher, en tout cas dans mes souvenirs. Mais en plus, la présence de William Goldman, c'est vraiment c'est ce qui a permis à Hopkins de se raccrocher au projet, parce qu'en fait, Hopkins, pendant le tournage de je ne sais plus quel film, il a lu Which Lie Did I Tell, qui est un livre qu'a écrit William Goldman, où il évoque notamment Misery et Kathy Bates.
Je crois que c'était Dragon Rouge.
Okay.
C'est la suite du Silence des Agneaux.
C'est ça. C'était ça. Et en lisant ça, il s'est dit qu'il avait aimé le livre. Enfin, il a aimé le livre. En lisant ça, il s'est dit que ce serait bien de participer à une adaptation de King. Et 4 jours plus tard, le hasard fait bien les choses. Son agent lui propose Cœur perdu en Atlantide. Donc, il se retrouve embarqué dans le projet comme ça. Projet dont la société Castle Rock Entertainment, qui produit, qui est, entre parenthèses, la boîte de Rob Reiner, à qui on doit aussi les Stand By Me, Misery, Les Évadés, La Ligne Verte et d'autres, l'avait acheté les droits avant même la parution.
Alors,
c'est la société de Rob Reiner qui a réalisé Misery, qui a été écrit par William Goldman. Voilà, tout ça, c'est un peu un projet qu'on se resserre entre potes, quoi.
Tu dis le hasard, moi je dirais le cas.
Le cas. C'est vrai. C'est pas bon. Sachant que Goldman, à cette époque, pour lui, c'est un peu une parenthèse enchantée parce qu'il travaille sur Dreamcatcher et il se s'arrache vraiment les cheveux sur Dreamcatcher.
C'était après l'album de Céline Dion, non?
J'ai pas... Ah oui, non, oui, oui d'accord, okay, Goldman.
Ah,
voilà.
C'est Jean-Jacques.
Ça devient très précis, c'est vrai.
Ouais. Mais j'essaye de les faire qu'elles soient chronologiquement plausibles, tu vois.
Et non, c'est pointu.
J'avais un dernier point, vu qu'on parlait du casting. Le jeune Bobby, il est joué par Anton Yelchin, qui est malheureusement décédé dans des conditions tragiques et dans un accident domestique dû à la...
À un défaut de fabrication de sa Jeep.
De cette
qui l'a écrasé. En fait, il avait une pente pour aller à son garage et il était derrière sa voiture. La voiture s'est mise en marche toute seule, donc le frein a dû lâcher et il s'est retrouvé écrasé contre la voiture et un poteau.
Ouais, oh. il y a eu plusieurs accidents comme ça et au cours de l'expertise pendant le procès, il s'était même rendu compte qu'il y avait des témoignages où la voiture, même à plat, elle se mettait à avancer toute seule alors que le frein à main était mis. Donc une grosse défaillance. Il est décédé comme ça à l'âge de 27 ans, je crois. Et en fait, à ce moment-là, au moment où il est décédé, il avait été engagé pour jouer Brady Hartsfield dans la série qui adapte Mister Mercedes.
Oui.
Et donc il a fallu refaire un casting. Ils ont pris une autre personne du casting. Mais voilà.
Il aurait pu être tellement bien.
Ouais, ça se voit. Moi, on va pouvoir passer, je pense, au tour de table des avis. Mais moi, je trouve ce film, moi, je l'aime beaucoup. Alors, il est lent, mais tous les films de l'époque sont archi lents. Mais il est très, très bien joué, quoi. Anthony Yelchin, il joue extrêmement bien. Même la gamine qui joue Carol, dont j'ai oublié le nom, joue très bien. Anthony Hopkins, on n'en parle pas.
Carrie 2, qui est sorti en 99, était plus rapide que ça.
Ah, tu as ton échelle de Carrie sous la main, Julien.
Alors, j'allais dire, je pense qu'il est temps de passer à l'échelle objective de Carrie par Julien.
Ça évidemment. Fait longtemps qu'on l'a pas ressorti en plus, parce qu'avec la tour sombre, on attend. Alors,
on va pouvoir bientôt la ressortir pour la tour
bientôt,
sombre.
Bientôt, tu vas être content de le placer sur l'échelle, celui-là.
On attend tous.
On rappelle que l'échelle de Carrie place de manière objective toutes les œuvres de King, enfin toutes les adaptations des œuvres de King selon 3 critères : le respect de l'œuvre, le respect de l'ambiance et le divertissement. Alors attendez, hop.
On rappelle que seul Julien touche à cette échelle.
Oui.
On n'a pas notre mot à dire.
C'est et pas voilà, un vote vais... d'équipe, il n'y a pas un débat avant.
Donc voilà. Du coup, est toujours premier pour l'instant. Peut-être que Cœur en Atlantide va le détrôner. Carrie de 76. suivi de Christine, Carrie de 2013, l'épisode 2 de la saison 5 de Glee, La part des ténèbres, Salem de 79, Brume le film, Dans les hautes herbes, Brume la série, l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale, Salem 2004, Les Langoliers, c'est vrai qu'on avait classé Les Langoliers, Carrie 2, Les Enfants de Salem, Le Radeau, l'épisode 15 de la saison 6 de Castle, Carrie 2002 et le clip du groupe Ghost. Voilà.
Alors, tu l'as dit, Shining?
J'ai oublié Ghost.
Tu l'as dit, Shining?
Non, mais il y en a plein qu'on n'a pas mis.
On l'a pas classé.
Ah, ouais, tu te rends compte si on avait mis tous les enfants du maïs?
On l'a pas classé.
Non, mais Shining, c'est pas les enfants du maïs.
On a fait une série à part, donc je pense que c'est pour ça.
Ah oui.
Alors, respect de l'œuvre, 4.
Sur 5.
Sur 10.
Sur 10?
Bah, bien sûr.
Ah, bah, d'après, le résumé que j'ai lu me paraissait ultra fidèle, à part cette histoire de tour sombre.
Ça dépend ce que tu appelles l'œuvre. Est-ce que c'est le recueil complet ou est-ce que c'est uniquement les deux nouvelles qui ont
été... Est-ce que ça s'appelle, truc des imperméables jaunes patati patata? Non?
Ok. Pardon. Oui, en effet, 4 sur 10.
Alors, je suis désolé, mais un livre qui adapte un chapitre 3 quarts sur 5, ça ne respecte pas l'œuvre. En plus, il n'y a plus de magie, il n'y a plus de tour sombre, il n'y a plus de voiture mangeuse d'hommes avec des dents pointues, il n'y a plus rien. Pour moi, il n'y a plus rien.
Est-ce que ça parle du Vietnam?
Même pas.
Bon, alors...
Il y a trop de choses...
Mais vos cartes, au moins.
Et pour moi, il y a trop de choses qui sont simplifiées, ce qui fait que, tu vois, genre, le don de Ted, ça n'a aucun sens. Genre, et puis le fait que ça se transmette en touchant, genre la première fois que Bobby touche Ted, normalement ils sont un truc, etc. Là, genre il le touche, l'autre il le repousse et dit t'arrêtes de me toucher. C'est pas du tout le même délire. Je suis désolé. Il n'a pas respecté l'œuvre. En plus, moi j'aime bien Anthony Hopkins et j'aime bien Anton Yelchin, mais quand je lisais la nouvelle, j'avais pas ces deux têtes en tête quand j'imaginais Ted et Bobby. Hein. Moi j'imagine Ted plutôt en Jeff Bridges. Un mec un peu plus vieux, mais pas vieux comme Anthony Hopkins, quoi. Un mec qui a encore des cheveux, quand même.
En fait, Anthony Hopkins, il est pas si vieux que ça. Ça fait vraiment longtemps qu'il a plus beaucoup de cheveux.
Ouais, mais il fait.
Mais ça fait longtemps qu'il est vieux, surtout.
Non, mais est-ce que quand vous l'avez lu, vous êtes dit Ted, c'est Anthony Hopkins?
En tout cas.
Quelqu'un qui avait l'air aussi vieux que ça, non?
En tout cas, c'est pas Jeff Bridges. Jeff Bridges, c'est un espèce de vieux beau, là.
Ouais, mais
Ted, je le vois pas comme ça. Hein.
Moi, je voyais un peu vieux beau, pour le coup.
Oh non, mais c'est le gars qui est en fuite et tout. Vraiment pour le coup non, pas du tout.
Bobby, alors l'acteur, mais l'autre là qui sort d'une pub là, mais rien du tout. Non, Bobby, il est censé être un peu beau gosse et il le sait pas. Là, le mec, enfin je suis désolé, Anthony Yelchin quand il était gamin, il était pas beau quoi. Et
si, il est mignon. Ah,
non.
Moi, je l'ai trouvé trop mignon, presque.
Et ben, moi,
en tant que femme hétéro, ex-petite fille hétéro, ma petite fille, j'aurais bien aimé Anthony Yelchin.
D'accord.
Bon. Ah oui, c'est clair.
Là, je vais vous suggérer quelqu'un qui n'était pas possible de prendre, mais River Phoenix, qui joue dans Stand By Me, il fait un bien meilleur Bobby que Anthony Yelchin, pour le coup.
C'est très subjectif, là, quand même.
J'ai pas vu Stand By Me, mais rien qu'avec les photos et tout ça que j'ai pu voir, effectivement, Bobby, je l'imaginais plutôt comme un des quatre gamins
Merci.
Qu'on peut voir sur les photos, enfin du film du coup. Voilà.
Il est pas assez maigrichon.
Ouais.
Oui, ça m'a marqué.
Oui, déjà.
Aussi. Il est plutôt un peu fluffy.
Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux pas un très bon acteur, mais pas très fidèle à la description, qu'une copie conforme qui joue pas très bien?
Oui, et puis, ça avait pas trop d'importance.
Par contre, ils auraient pu prendre Eastwood plutôt que.
Ouais, Eastwood, ça marche aussi, tu vois, un vieux sec.
Ouais.
Un vieux sec.
Ben oui.
Un vieux tout sec.
On qu'on parle de biscuit, quoi.
Alors, moi, j'imaginais plus un petit rondouillard, mais pourquoi pas.
Et désolé, mais Carole, elle meurt à la fin, et ça, mais c'est moins 3 direct. C'est-à-dire, dans l'adaptation, elle est morte, et elle est morte, quoi. Donc,
Mais en fait, ah oui, non, bah non, dans la fin, allez. Non, ouais, ok.
Donc voilà, j'ai trouvé qu'il avait bien chié sur l'œuvre quand même quand il avait écrit son scénario. Donc 4.
Ah ouais, carrément.
Ouais.
Vous êtes d'accord, les autres?
Je le trouve un peu fort. Moi, je regrette le manque d'éléments surnaturels, mais j'aurais pas dit qu'ils avaient chié sur l'œuvre non plus.
Si.
Je le trouve un peu dur, ouais, mais je.
Non,
après,
mais
tu sais.
Je suis pas
quand t'acceptes Shining, t'acceptes tout. Hein.
J'allais dire, on parle d'un gars qui trouve que Shining est une très bonne adaptation. Je vais faire de ça.
Respect de l'ambiance. De là, hein. J'ai mis 6. parce que j'ai écrit parfaite transition, Julien, parce que si vous m'aviez pas interrompu, j'aurais fait une transition avec Killer Phoenix. Et en fait, ce film, il a un mood Stand By Me, mais en nul, en moins bien. C'est un Stand By Me nul. Voilà, c'est ça en fait qui a perdu l'Atlantide. Ça parle de la même chose, du passage de l'enfance à l'adolescence, mais en moins bien. Voilà. Ça parle des années 60 et tout, c'est pas mal. Ça sointe le sucre, la nostalgie, mais en moins bien. Et
Ce truc, il se débrouillait quand même bien. La relation entre Ted et puis Bobby est plutôt bien. Ils sont bien tous les deux. Ils vont bien ensemble.
Ouais. Moi, je trouve que ça marche pas à l'écran. Vraiment.
T'étais dans quel mood quand tu l'as vu?
Ouais, j'allais dire pareil. T'étais
moi, je suis heureux de la vie et tout, mais non.
Ok. Trop, bah peut-être un peu trop. Calme-toi.
T'avais pas pris le petit déj avant de regarder.
Non, j'étais bien niveau glucose et tout. Nickel, mais non. Et puis,
c'était hier soir. D'une main, il écrivait ça, de l'autre main, il faisait un montage et en face, il y avait l'écran avec le film.
Et le passage dans le début des années 2000. Alors, le Bobby vieux. Alors, déjà que le Bobby jeune, je le voyais pas comme ça, mais alors le Bobby vieux. Mais pour moi, c'est un inconnu. Je ne sais pas qui est cet homme.
Alors, ouais, là,
mais
c'est le pas Bobby, mon Bobby vieux. Pour le coup, celui qui joue Bobby vieux, je l'aurais bien vu en Ted. Ted, je l'imaginais assez comme ça, un peu, voilà.
Peut-être un peu trop jeune pour jouer Ted, mais.
Ouais, il est peut-être un peu trop jeune, effectivement.
Non, mais de nos jours, alors, du coup. La gueule qu'il a maintenant.
Ah oui, bon.
Donc voilà. Et divertissement, j'ai mis 5, car je vous avoue, je me suis endormi devant ce film. Au bout d'une demi-heure.
Ah, mais c'est ça, en fait, que t'as trouvé que ça avait pas de sens, le scénario, tu l'as
non,
pas lu.
J'ai remis en arrière. Mais voilà, toi tu disais, Émilie, c'est un film lent parce que c'est les années 2000. Et ben moi je te dis que c'est un film moyen des années 2000. Il y a des bons films des années 2000, mais lui c'est un film moyen. C'est pas un mauvais film, c'est juste bof.
Ce qui fait ça, que... ouais, c'est juste bof. Mais ça fait dans que... les milliards d'adaptations de King, il fait partie de la bonne moitié, quoi, quand même.
Et ben avec tout enfin, ça, moi, hein. Il a la moyenne.
On va voir.
Il a 15 sur 30. Et 15 sur 30, ça le place entre eux. Carrie 2 La Rage de 99, qui avait eu 16, grâce à un très beau 9 sur 10 en divertissement. Car il avait du rythme, lui, puis on rigolait bien. Franchement, on rigole bien en regardant Carrie 2. Même si lui, il chie encore plus sur l'œuvre et sur l'ambiance de Carrie. Et il est juste au-dessus des Enfants du Salem. Qui lui aussi était divertissant.
Enfants de Salem.
Les enfants de Salem. Les enfants du maïs à Salem.
Les enfants de Salem, pardon. Et pas du Salem, qui est une montagne derrière Genève.
Qui ont une très bonne brasserie, d'ailleurs.
Oui. Voilà. Qui, eux, avaient eu 13. Donc voilà, avec 15, ils se situent là. Parce qu'en fait, les adaptations qu'on a notées sont plutôt bien notées grâce à au moins... En fait, elles ont souvent au moins un axe fort. Alors que celui-là, il est, comme on disait dans le conseil, « wide but not deep ». Il est moyen partout et bon nulle part. Ben voilà, c'est ça, cœur perdu en Atlantide.
Ouais, c'est pas la traduction littérale, mais pourquoi pas.
Très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, ceux qui ont vu ce film?
Moi, je suis pas d'accord avec Julien.
Ah ouais, bagarre. Ah,
allez, vas-y. Défends ton bout de gras.
Alors, bon, je dirais pas c'est non plus l'œuvre du siècle, mais c'est vrai que moi, j'étais partie en me disant c'est un navet. Et en fait, j'ai regardé et je pense que j'étais dans un mood, pas un bon mood, mais un mood accessible à ce film. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la relation entre les deux. Ils ont fait quelque chose qui était un peu moins creepy. C'est le côté « je t'aime, petit garçon », tout ça. Donc ça, j'ai bien aimé. Finalement, j'ai bien aimé qu'il n'y ait pas ce côté des machins en jaune, ça aurait eu aucun sens, comme je disais avant. Et voilà, et qu'il soit poursuivi par le gouvernement parce qu'il a des pouvoirs surnaturels, c'est pas déconnant pour autant. Et je trouve que c'est un joli film, les acteurs sont très bons. Ça, c'est vrai que des gamins qui jouent comme ça, c'est assez rare. Donc non, j'ai passé un bon moment. Ouais, ça manque un peu de profondeur peut-être, mais... moi, j'ai trouvé très bien. Vraiment, pour le coup, j'ai été étonnée en bien.
Ouais, j'ai passé un bon moment aussi. En plus, il a l'avantage, contrairement à d'autres anciennes adaptations de King qui sont pas connues, il est en VOD. Moi, je l'ai regardé sur Prime. On peut le louer pour 4€. Et il est en bonne qualité. Parce que moi, je sais qu'il y a des adaptations que j'ai revues pour ce podcast sur des vieux DVD que j'ai et où la qualité est à chier et où ça gâche en plus. Ça aide pas à apprécier le film, quoi. Là, c'est sûr, il faut pas s'attendre à être accroché pendant longtemps. Après, il a quand même l'avantage, à une époque où on commençait à vouloir faire des films à rallonge, je crois qu'il fait 1h30 ou 1h40, un truc comme ça. Ce qui est pas très long.
Presque 2h, ouais.
Ah ouais, moi j'avais relevé une bonne heure et demie, mais ouais, moi je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai eu l'impression de voyager un peu entre 2263 et Stand By Me.
Ouais, voilà.
Et sans y arriver du coup, si on
et
en proche.
Et la fin, c'est vrai que la fin est pas ouf, elle est ok.
Mm-hmm.
Parce ouais, que donc la fin, en fait, ben il voit la maison et il y a une ado. Qui dit ouh t'as pas le droit d'être là et,
une ado émo
ouais exactement et bah elle lui dit ouais c'est, ta mère c'est pas Carole et elle lui dit que
ouais, ta mère c'est pas Carole
oui alors c'est l'inversion hein, qu'on soit d'accord c'est l'adaptation
c'est
l'adaptation elle dit ouais mais ouais mais elle est morte Et en fait, il sort une photo qu'il avait faite de sa mère en noir et blanc. Parce que dans le film, il faisait des photos. Et il lui donne, et voilà, l'ado lui dit même pas tchou mec, elle se casse. Voilà, mais elle est contente. Voilà, c'est une ado. Et fin, voilà, bon, c'est ok, tu vois.
Une ado, en plus, une ado des années 2000 avec oui. le bonnet, les cheveux colorés en noir avec la mèche, les yeux barbouillés de noir et tout. Je
pense et que les manches trop longues.
Ouais, les manches gants, tu sais, ouais.
Oui.
Donc, non, moi, bien. Surprise en bien. Vraiment, pour le coup, ouais.
Eh bien, très bien. Dites-nous en commentaire, chers auditeurs, ce que vous avez pensé du film.
Enfin, dites-nous pourquoi j'ai raison.
Choisissez votre camp.
Choisissez votre équipe.
Je vous propose de passer à la théorie de Hurd.
Allez.
Pour une fois, on va directement dans le sujet. Je n'ai pas fait de prologue, épilogue et compagnie. Donc, je suis un briseur de gens, d'idées, de pays, de rayons, de monde. J'erre à travers les dimensions pour échapper à mes suiveurs qui veulent que je brise le dernier rempart d'un monde, tenu par la force de rayons, dont il n'en restera bientôt qu'un seul. Et ils me veulent moi, car je suis le meilleur briseur. Vous devez certainement penser que c'est une malédiction, et je pense comme vous. Un lourd fardeau qui m'oblige à fuir constamment, et parfois même m'oblige à suivre des ordres que je ne comprends pas. Il m'est souvent difficile, voire impossible, de saisir si briser quelque chose est pour le bien ou le mal. Ce qui est certain, c'est que j'emporte les débris de ce que je brise avec moi. Mais être le meilleur, c'est aussi pouvoir apercevoir le meilleur. Lorsque je commence mon travail, j'entrevois toutes les tonalités de ce que je saisis, toutes les nuances, toutes les notes, ce qui est répugnant et ce qui est merveilleux. Chaque parcelle, chaque atome me dévoile ses facettes, celles d'ombre et celles d'arc-en-ciel. Un jour, j'ai rencontré Bobby et Carole. J'ai entrevu leur future vie, celle de toute une génération qui allait être marquée au fer rouge par une guerre. Ceux qui allaient mourir armes en main, de la maladie, de leurs cauchemars et en défendant leurs idées. Mais Bobby et Carole survivraient. Devant cette génération pleine de haine et de souffrance, je gardais le souvenir de Carole et Bobby dans mon esprit. Je vis tout ce qui fut brisé autour d'eux, mais je ne pouvais rien changer. Je ne sais pas réparer, recoller, réanimer. Je ne suis qu'un briseur. Alors je décidai que ce souvenir devait perdurer ne serait-ce qu'une nuit, qu'un instant. Je m'emparai du gant de baseball de Bobby qui avait été volé puis utilisé comme objet de pénitence par Willy l'aveugle. Il ne se pardonnerait jamais de n'avoir pas arrêté son camarade dérouillé une fillette, même après avoir sauvé Sully de façon héroïque. Je pris le livre qui avait été transmis de Bobby à Carol, puis à Pete, qui était et est resté un bon gars, pas trop impliqué, pas trop amoché. Et lorsque Sully, tourmenté par ses cauchemars, était en train de s'y faire entraîner, je lui fis parvenir le gant et une page du livre à l'intérieur, rendant sa mort moins pénible. Et ainsi, le souvenir merveilleux que j'eus de cette génération brisée se répéta une dernière fois en rassemblant Bobby et Carol, grâce aux gants et aux livres. De tous les débris noircis et puants qu'il restait, je choisis de me souvenir de ce ciel étoilé et de cette odeur de rose que partagèrent ceux que j'avais tant chéris. Oui, je sais, il y a des chats ninjas qui coupent des oignons. Je vais aller leur donner quelques macros. Merci et à bientôt.
Ah, merci Huan, c'était trop bien.
C'était merci très beau.
À vous.
Ouais, tu m'as mis les poils.
Ouais, c'était.
J'ai vraiment eu la chair de poule.
Cool.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai dû.
Un beau prologue au prologue.
C'est pour ça que j'ai dû faire pas mal de recherches. Ça m'a pris pas mal de temps quand même. Pour essayer de retrouver les interactions avec les persos, c'était un peu compliqué pour moi.
Non, mais franchement, le point de vue de Ted avec une vision un peu externe, c'était très beau.
Merci beaucoup.
C'est peut-être plus proche de la réalité que tu ne le penses.
Oui, effectivement.
En fait, c'est toi, Stephen King.
Elle enlève son masque.
J'aurais préféré Emma Green, mais on peut pas tout savoir.
Oh, ça manquait de tentacules chez Emma Green aussi. Je suis désolé.
Ouais, exactement.
Il y avait un robot, mais bon, après c'est une autre histoire. Passerions-nous aux questions des auditeurices?
Oui.
Faisons ça.
Bilibili.
Qui s'y colle?
Quelqu'un qui arrive à lire.
J'ai pas d'assez bons yeux.
Alors, pour je peux lire. Allez.
C'est bon, j'ai mis en 100% de large. Allez. Sur
ouais,
mon
moi
écran.
Moi aussi, je l'ai comme il faut. Vas-y.
Alors, sur le Discord de Podcut, Corwi nous demande quel serait votre plaisir coupable en comparaison au chasse-cœur, pas juste le chocolat parce que c'est Pâques.
Ah bah, pomme, on sait, c'est Renault.
Bah, si on parle du chasse-cœur, on parle d'une addiction quand même.
Non, moi, ça serait, la question, c'est plaisir coupable.
Oui, mais en comparaison avec le chasse-cœur, donc oui, en gros, qui serait
donc, y a quand même
aussi
un côté,
addictif que ça pour nous que pour Pete.
Ben moi, j'ai un jeu de cartes auquel on jouait beaucoup avec les collègues avant les premiers confinements qui s'appelle le Trot. C'est un petit jeu de pli 4. Qui est un vieux jeu issu de, ouh là là, je sais pas où en France, et qu'ils ont twisté avec des cartes spéciales, avec des pouvoirs qui foutent le bordel en plus. Et on y jouait à toutes nos pauses. Le midi, on y jouait, on se regroupait à 4 ou 6, et puis on partait, on enchaînait des plis, et puis ça nous détendait. Donc on a fait pas mal des parties comme ça. Bon, étant gamin, étant jeune, c'était plutôt le tarot à l'UT, et puis là on a retrouvé ça avec le trot.
Moi, j'en trouve ça que le 6 qui prend, tu vois. Mais je dirais pas un truc à un plaisir coupable, je sais pas.
Quasiment addictif auquel vous ne pouvez pas résister, qui limite gâcherait votre vie.
Regardez 20 minutes de TikTok.
Ah ouais, j'avoue.
Ouais, mais tu vois, l'arrivée, est-ce que c'était... Moi, je sais que je le fais, ça, maintenant, quand je me fais chier, que je veux que le temps passe plus vite, je sais que ça va m'engouffrer dans un truc d'espace-temps réduit. Est-ce que on peut dire que c'est un plaisir? Je dirais, moi, il y a des moments où soit une série, soit un jeu vidéo, je vais être obnubilée par le truc, avoir la musique en tête, avoir machin, et limite à tout reporter parce que faut que je vois un épisode, deux épisodes, trois épisodes, quatre épisodes de plus, ou à pas dormir de la nuit parce que j'ai enchaîné une saison. Ou bah typiquement récemment Brooklyn Nine-Nine. Je l'ai découvert il y a un an. En un an, je l'ai vu deux fois. Et là, j'ai les 8 saisons. Et là, je suis en train de freiner des 4 fers pour pas relancer la série. Donc,
voilà. Mais du coup, t'es allé au bout, ça va en être fait, finalement.
Ouais, moi, j'ai tout vu, moi.
Ah. C'est le nom de ta future sexe.
Oui, j'ai des...
Et je peux... Là, il y a deux jours, on a rallumé Valheim avec, avec mon copain. Et alors que ce jeu est sympa, mais c'est pas non plus le jeu du siècle, en ce moment, je pourrais faire que ça de mes journées. Aller couper du bois pour construire une palissade dans un jeu vidéo, ça n'a pas de sens.
Moi, je suis comme toi, j'ai des phases obsessionnelles sur des trucs.
Ouais. Faire des palais présidentiels dans Valheim, c'est trop cool.
Que maintenant, ils ont rajouté les cavernes de glace.
Ah ouais?
Non, on en est pas là. Hein.
Ah.
Il y a des, il y a eu des.
Bon, c'est pas encore. Bon, bref, c'est pas encore de quoi reprendre le jeu, mais. Mais ah, il y a des petits ajouts.
Moi, je suis plus comme toi, Pam. J'ai des phases obsessionnelles sur certains trucs. Toi, tu parlais fiction ou jeux vidéo. J'ai eu ça sur Euphoria, donc j'ai beaucoup de mal à sortir. Où, je vais beaucoup regarder des extraits, des bloopers, des meilleurs moments de tel personnage, des clips, la musique en boucle et tout. J'ai ça aussi sur un jeu que j'ai auquel j'ai joué, mais il y a déjà plus d'un mois, qui s'appelle Gris. Où c'est mon fond d'écran de téléphone, c'est mon fond d'écran de mon ordinateur là, mon fond d'écran de mon ordinateur au bureau, ou pour travailler j'écoute la musique, ou je, enfin voilà, et je des trucs un peu compulsifs comme ça, et un jour ça va me passer quoi. Et je l'ai là avec la tour sombre. Hein. Moi j'ai complètement sombré et j'ai déjà des tatouages en référence à la tour sombre, et je sais qu'il y a des trucs qui sont en train de tourner en tâche de fond qui sont pas du tout, que j'essaye de complètement mettre de côté en me disant ça suffit, ça suffit les tatouages. Mais là la tour sombre, on sort du week-end de Pâques, pendant 3 jours je suis restée le nez collé dans des bouquins en anglais qui analysent dans tous les sens les connexions, et qui te re-résument des bouquins que du coup j'ai déjà lu 2 fois, mais que du coup j'ai relu en anglais le résumé qui fait 20 pages au cas où j'ai loupé des trucs. Enfin c'est
moi c'est, ça s'exprime quoi. Pas comme ça, c'est pas autant dans le temps, c'est vraiment sur un truc. Tu vois, tu disais Renaud, j'adore Renaud, j'ai écouté, réécouté, machin. Je connais par cœur jusqu'à un certain point où après ça devient nul. Par contre, je suis pas une fan j'ai zéro t-shirt, j'ai pas de poster, je connais pas sa vie par cœur, tu vois, j'ai pas
dédiée avec une affiche grandeur nature.
Non, pas du tout.
T'as pas RenaudFrance.fr?
Déçu.
Non, j'ai pas RenaudFrance.fr.
Parce qu'en là, King, c'est un plaisir coupable, mais ça fait 11 ans que ça dure quand même, quoi. Donc bon, c'est plus, voilà.
Mais bon, ouais, voilà, ça serait des trucs comme ça. Et vous? Les autres?
Moi, c'est clairement les jeux mobiles gratuits, que je change ou pas régulièrement. Tu sais, la cible, c'est soit les petites filles, soit les ménagères, voilà. Et ouais, non, ça c'est clairement... je peux y passer beaucoup de temps.
Mais t'es toujours sur Pokémon Go, toi?
Oui, un petit
peu. J'allais poser la question, ouais.
Un petit peu, parce que je marche maintenant. Donc ça m'occupe. Mais non, j'ai d'autres jeux que je peux pas citer, parce que c'est trop la honte, quoi, en fait.
Mais non. Enfin, non, c'est pas la honte. Après, ne les cite pas si t'as pas envie de les citer, mais c'est un plaisir coupable, tu vois.
Non, mais j'ai un jeu, faut collectionner des chats, tu vois, et ça fait, depuis le...
Il y a des gens qui font ça avec des NFT et qui payent des millions, donc.
Ouais, c'est vraiment, ça ne sert à rien et c'est addictif et voilà. Après, ça me fait passer le temps, ça me repose et tout, mais c'est vraiment, pour le coup, plaisir coupable et un peu useless, quoi.
Tant que ça te divertit et que c'est un plaisir, je dirais que c'est pas useless.
Et que ça fait de mal à personne.
Ouais, mais c'est vrai que je montre pas à tout le monde que je joue, parce que c'est un peu la honte.
Bah, c'est sûr que là, maintenant, personne va le savoir. Parce que personne n'écoute le podcast.
Exactement.
Écoutez du Kyo.
Ouais, j'allais dire, toi, c'est Kyo, plutôt, non?
En fait, j'ai pas
Ouais, mais tu le fais pas en cachette.
Enfin, soit j'ai beaucoup d'addiction, soit j'en ai pas tant que ça. Ouais, mais c'est pas
non, mais
coupable.
Ça, oui, mais c'est, je pense que c'est quoi, c'est Lisa Razou qui en parlait dans une interview où il a passé un stade dans son rapport au sport où c'est une addiction, quoi.
Alors oui, il y a des gens qui sont comme ça,
mais c'est une addiction chimique. Enfin, c'est...
Non, mais il y a des gens, s'ils font pas de sport pendant 2 jours, ils sont tristes.
Ouais.
Ou en colère.
Oui, mais parce que quand tu fais du sport, tu crées une substance qui fait que si tu l'as plus, t'es pas bien.
Il y a un vrai syndrome en plus de ça. Il y a un vrai truc.
Oui,
ouais,
non, ça existe.
Moi,
hein.
Pour oui, moi, pour moi, c'est pas un plaisir
mais c'est
pour coupable. C'est une addiction.
Mais cette substance
on parle
s'appelle la morphine.
Ouais, mais quand tu regardes, dans la nouvelle, le chasse-cœur, c'est pas un plaisir coupable, c'est une vraie addiction. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de répondre à la question plaisir coupable comme le chasse-cœur. C'est pas un plaisir coupable, quoi. C'est,
oui,
y a
pour
un
moi,
vrai
c'est,
problème
c'est
autre.
Une addiction, clairement. Effectivement.
C'est
le
problématique,
fromage.
Quoi, carrément.
Ah, le fromage, moi, c'est le ketchup.
Ça me gâche la vie.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais.
Oui, faut je me retiens, sinon je ne mange que ça.
Bah ouais, bah le sucre à ce congélateur n'a pas le droit de dire le chocolat, mais bah je dis bah c'est le chocolat.
Bon, je pense qu'on a bien répondu à la question.
Oui, oui hein.
Allez, ah, question ouais. de Flavien. Si vous deviez retenir un des noms de King, soit un de ses pseudos, lequel, au vu de sa bibliographie?
Je crois qu'il a reprécisé la question après.
Oui, il a précisé la question
oui,
en disant
bah,
King ou Bachman, mais il n'y a pas que King et Bachman.
Il y a
Emma
Green.
Je vous invite à écouter l'épisode de la réponse D qui s'appelle « De quoi est mort l'auteur Richard Bachman ?» où l'on parle de tout ça. Du label Podcut, évidemment.
Moi, j'adore, j'adore ce qu'il a écrit sous le nom de Richard Bachman, mais il y a tellement plus de choses sous le nom de King que je garde King. Même si, ouais, même si parmi mes préférés, enfin que Blaise c'est quand même dans mon top 3 et que c'est un Bachman.
Blaise.
Non, alors moi c'est
pas Blaise Pascal.
Blaise. Blaise.
Moi c'est clairement Bachman parce que les premiers que j'ai lus c'était pas forcément, enfin on savait pas trop que c'était de King et ils m'ont beaucoup plus plu. Que ceux de King, en fait, au tout début. Donc,
voilà. Toi, tu les as lus sans savoir que c'était King?
Ah, c'était pas très clair.
Les premiers Bachman? Ok.
Ouais.
Ok, ok. Moi, je pense que ça serait Bachman, mais comme il... plus je le découvre et plus je me rends compte qu'il a écrit des trucs qu'il aurait pu écrire sous le pseudonyme de Bachman.
Oui.
Du coup, il n'est qu'une seule personne, on ne peut pas choisir.
King.
Ok.
Moi, je choisis pas.
Après, c'est pas une question.
Tu choisis de ne pas.
Pas une question. Cypheres nous dit pas de question, juste bon courage pour cet enregistrement.
Merci.
Merci.
Eh ben, merci.
Merci.
Cypher, qui est notre nouvelle Patreon sur le label.
Ah,
Patreon.
Bienvenue.
Double merci
Patreon.
Alors.
Exactement.
Ensuite, Juju Pink nous dit merci pour ce nouvel épisode. Petite question, toute petite question. Vous avez préféré quelle partie? Prenez soin de vous, les loulous.
On
merci. Et quelle partie
bah,
on a
coup,
peu
on
répondu? On a dit grosso modo la première.
Sauf pour Pomme.
La 2 ou la 4.
Sauf pour Pomme
2 et 4. Et Urde la 3.
Et Urde aussi.
Ouais, la 3.
T'as dit la 3 et la 5.
Non, la 2 et la. Attends. Oh, purée, c'est compliqué. La 3 et la 5, oui, pardon. Ouais.
Ok. Ensuite, Jack T nous dit hello à toutes et à tous. Ma question porte sur le meilleur ordre de lecture que l'on peut avoir. Ou doit avoir. Ce livre étant été publié en 99, doit-on avoir lu avant la saga La Tour Sombre jusqu'au tome 4, 98, pour en saisir toutes les subtilités et références? Ou alors peut-on lire l'intégralité de la saga et ensuite Cœur perdu en Atlantide, sans trop spoiler ce dernier? Un grand merci pour votre travail pertinent et de longue haleine sur l'œuvre de Stephen King. Et là, je laisse répondre Émilie et Grandpoil, et je suppose qu'ils vont dire non, mais on peut rien dire.
Non, mais en fait, c'est
non,
justement,
ils vont dire qu'il y a un dossier sur le site de Stephen King France.
Ouais.
Non, mais il vaut mieux le lire avant le tome.
Si on le lit maintenant, c'est vraiment parce que c'est notre code, en fait, pour bien apprécier des choses qu'on peut dire ou voir
voilà.
Dans le tome 7 qui fait quand même 1000 pages, hein, donc il y a de quoi faire. C'est mieux d'avoir en tête ce qui se passe dans Cœur perdu en Atlantide. Comme c'était mieux avant de lire le tome 5 d'avoir en tête ce qui se passe dans Salem. Tu vois, c'est ce genre.
Voilà, mieux avoir. Tu apprécies plus le personnage même en connaissant déjà le roman.
Et en effet, sur stephenkingfrance.fr, en plus je l'ai mis à jour ce week-end, il y a un dossier qui s'appelle le guide de lecture de la Tour Sombre, et notamment je cite alors ceux qui font complètement partie du cycle, mais aussi ceux dont les histoires sont très très liées et à quel moment du cycle il faut les avoir lus. Et donc on a dit Le Fléau avant le tome 4, Salem avant le tome 5, et ça, Insomnie et Cœur perdu en Atlantide avant le tome 7.
On pourra peut-être le mettre en lien dans les détails de
ouais,
l'épisode.
Bien sûr.
Mm-hmm. Oui.
Puisqu'on nous pose régulièrement des questions à ce sujet quand même. Donc bon.
Ouais, et moi, le dossier, il est venu de ça. Hein, parce qu'il y avait la question, elle revenait assez souvent sur les groupes et tout. Je me suis dit, bon, en fait, il faut rassembler l'information quelque part, quoi.
Et sur Twitter, Kerr de Fine demande, vous allez lire quand, Charlie?
Moi, je pose la même question, on va lire quand, Charlie?
Pas tout de suite.
Cette année, ça serait bien, parce que le film, il sort le 1er juin en France. Alors là, on finit la tour sombre, mais genre pour une sortie DVD début d'année prochaine, je pense, ça serait pas mal.
Parce que moi, je serais bien allé voir le film. Je serais bien allé voir le film, mais ça me fait chier d'aller le voir sans l'avoir relu.
Bah, relis-le.
C'est mon premier King, Charlie.
Non, attends, je vous aime la tour sombre, là.
Ouais, voilà, j'allais dire, ou alors je laisse de côté la tour sombre et je relis celui-là, parce que si je le relis, je vais prendre des notes en même temps, hein, au cas où je me retrouve à devoir prendre des notes dans 6 mois.
Non, mais on a qu'à dire que c'est Grand Poil qui résume celui-là.
Ouais. Non, mais en vrai, j'ai quand même bien prévu d'essayer de lire des nouveaux Stephen King que j'ai pas lu et de prendre les notes comme si je faisais le résumé. Hein. Donc, ça, ouais. Non, ça peut être Charlie, même si Charlie, j'ai déjà lu, ça peut commencer comme ça. Hein.
Moi, c'est mon premier, il me tarde de le relire pour voir si j'avais été ultra emballé à l'époque. Alors,
mais peut-être.
Je veux pas que tu fasses le résumé.
Ouais, c'est ce alors, que j'allais dire, raison de plus bon. Pour que tu fasses pas le résumé, peut-être, effectivement.
Ouais.
Pour être à fond dans ta.
Bah bon, on a encore quelques mois avec la tour
sombre. Ouais, de toute façon, ouais, là, on a 2 mois, 3 mois. On a au moins 3 mois avec la tour
sombre. Et le film, c'est dans 1 mois et demi. Donc, si tu veux le relire avant, ça va être un peu serré.
Bah, je sais bien.
Mais moi, je me dis qu'il faut qu'on le fasse à un moment donné pour genre la sortie Blu-ray DVD. En effet, d'ici là, on sera libéré de la tour sombre, comme disait Grand Poil.
On verra après faire un,
bon, on verra bien.
Faire un hors-série. Bref, pas tout de suite. Un hors-série en sortie.
On verra si si nos camarades veulent encore lire du King après avoir passé 4500 pages sur la tour sombre. S'il nous fait une fin qu'ils n'aiment pas, fin. Jamais. Enfin, peut-être que ça signera à la fin de ce podcast.
Peut-être que c'est un des derniers épisodes que vous entendez.
J'ai confiance.
Mais oui.
Allez, dernière question.
Et enfin, sur le Discord de Stephen King France, Minka nous dit « Tiens, allez, à quel personnage de King vous êtes-vous le plus identifié dans ce que vous avez lu de lui, pas juste ce recueil ?» Voilà.
Voilà.
Et puis elle nous dit « Et vous, tout ça, et vous, ça va, bisous. »
Ça
nous,
va.
Ça va, bisous.
Bisous.
Ça va.
Bisous, Minka.
Ça va.
Eh ben, vous avez des réponses à cette question ?
Non, moi, j'ai vu la...
Moi, je me serais le plus...
Vas-y.
Vas-y. Bon, j'y vais. Non, moi, c'est assez facile. Hein. C'était Ben Hanscom dans ça. Je me suis très fortement identifié à ce petit gars qui me ressemblait quelque part assez.
Mm. Et tu es devenu un bel architecte.
Il est un bel architecte.
Architecte de l'information, mais architecte quand même.
C'est pas faux. C'est... Allez, ça passe. Merci.
Et tu as eu Bev.
Alors, moi, identifier, ça me parle pas du tout, parce que je m'identifie jamais vraiment à quelque chose que je lis ou que je regarde. Par contre, je suis une fan de Randall Flagg et de La Poubelle. Ça, c'est pas une nouveauté. Enfin, des persos en général badass ou complètement tarés, c'est pas compliqué. Et qui souffre et tout ça, c'est un peu ma marque de fabrique de perso préféré.
C'est ton fond de commerce.
Ouais.
Et ça, des persos qui souffrent, on est servi. Hein.
Oui, exactement. Et il y a eu un mème qui a tourné plutôt dans l'univers des mangas et des animes où tu avais un diagramme de Venn avec tes personnages où tu devais imaginer si tu les faisais souffrir, si tu les faisais tomber amoureux ou si tu les faisais rire. Et moi, en fait, j'ai fait ce truc innocemment et en fait, j'ai tout mis dans souffrir. Je me suis dit, il y a un truc,
ouais,
tu vois.
Il y a un pattern.
Innocemment.
Il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être travailler, mais...
J'ai juste mis une bombe, je comprends pas.
Mais effectivement, j'aime voir les personnes, enfin, les personnages qui souffrent, voilà.
Dans les fictions.
Et ceux qui sont dans ma cave.
en vrai, je
dans les livres ou dans les caves, mais pas dans la rue.
je vous rassure, en vrai, pas trop. J'aime plutôt que les gens soient heureux globalement.
Et bah, Wham, je suis un peu comme Urge, je me suis pas identifié. Par contre, je me suis attaché à Larry. On sait pas, Underwood. C'est pas j'aurais aimé être Larry Underwood. Voilà. Et j'aime bien Roland et Eddie, les deux. Je les aime bien, les deux de la tour sombre. Mais Roland, plus on avance, plus vous l'aimez pas, et plus moi je l'aime bien.
Moi, c'est moins pire qu'au début, je dirais, parce que là, il commence à souffrir.
J'ai pas de problème avec Roland non plus globalement.
Non, je trouve qu'il est extrêmement bien écrit. Enfin, il est très, enfin, ça, après, ouais, en effet, c'est une question de sensibilité. Parce que, pareil, j'ai pas l'impression de m'être déjà identifié. Il y a des personnages qui m'ont beaucoup touché, et je pense que je suis en boucle sur La Tour Sombre, donc moi, Jack de La Tour Sombre, c'est un de mes personnages préférés, je pense. Après, c'est en effet une question de sensibilité, parce que je pense que Roland, en ayant ce week-end un peu récapitulé tout le cycle, je me dis c'est vraiment un personnage qui est très très bien écrit et qui est très complexe, et j'ai hâte qu'on boucle le cycle pour un peu revenir, prendre le temps de tous revenir ensemble sur l'évolution de tous ces personnages pas mal de temps, quoi. Et un personnage que j'avais adoré, alors je me suis pas du tout identifiée, mais un de mes préférés, je pense que c'est Charlie, justement.
Ok.
Moi, je dirais que c'est justement dans ce recueil, le Pete, c'est Pete qui s'appelle
dans l'histoire 2
du tome 2, de la deuxième histoire.
Oui. Ouais, c'est Pete. Ouais.
Oui, c'est ça, Pete. Du coup, sur le côté, comme je le disais dans l'épisode précédent, procrastination, être convaincu qu'on va quand même s'en sortir alors que clairement le mur il est à 4 cm, de se dire non, mais ça va passer, je vais quand même tourner au bon moment.
Non, je devrais lui 500 pages pour demain, et... c'est bon, ça va le faire.
C'est ça, non mais voilà, c'est exactement ça, je l'ai fait toute ma scolarité. Comme je disais, j'ai écrit mon mémoire en 3 nuits alors que j'avais un peu plus d'un an pour le faire. Pour ce genre de choses, et des raisons trop nulles, je me suis aussi identifiée au début du bouquin sur Jessie. Je me suis identifiée à Jessie qui se pose des questions sur son couple, parce que à l'époque j'étais dans un couple où ça allait pas bien.
À l'époque j'étais attachée au lit.
J'étais attachée au lit, et pour lire c'était pas pratique.
Au fin fond d'une maison à Berck.
En plus, je devais prendre des notes. Attachée à un pieu, c'est vraiment pas idéal.
Facile. Il y a pas encore d'assistant vocaux.
Donc
ouais, marchait pas vraiment.
J'ai totalement compris ce que vivait Jessie à ce moment-là. Non, c'était
et
le
là,
côté.
Il y a un mec après qui avec un collier de bites.
Chambre. Bon, le Pas-de-Calais, je veux dire, le Pas-de-Calais, on a l'habitude.
On va encore avoir des problèmes.
Non, mais c'était parce que Jessie, elle a 30 ou 40 ans de plus. Non, elle a 30 ans de plus que moi, je pense, dans le bouquin, 20 ou 30 ans. Et en lisant en fait tous les doutes qu'elle avait sur comment elle s'était mise en couple avec ce gars-là, comment ils s'étaient mariés, ce qu'était devenu leur couple. En fait, au fur et à mesure que je le disais, je me disais, mais c'est ça, en fait, qu'on va devenir. C'est ça qui m'attend. Mais putain, mais c'est de la merde, en fait. C'était horrible.
Tu t'es vraiment identifié pour le coup.
Mais qu'au début. Ouais. Après,
un peu moins.
Je n'ai jamais eu à m'arracher la peau de la main pour pouvoir m'évader. Bon, voilà.
Et Emmerich.
Non, je me suis pas identifié à des personnages. J'ai eu beaucoup de sympathie ou d'empathie pour le. J'ai oublié son nom, c'est pour vous montrer à quel point il était. Je me suis attaché à lui. Le gamin de. J'ai oublié le titre d'ailleurs. En plus,
c'est bien, il n'y a pas beaucoup.
Marche ou crève.
Ça commence à être dur. Ah.
Okay. Le gamin de Marche ou crève.
Ah oui.
Je me souviens de Garati, mais ce n'était pas Garati.
Et je ne me suis pas attaché à Larry Underwood dans. Dans le fléau, non, c'était plutôt Nick Andros où j'étais. C'était mon poulain, c'était lui que je voulais voir gagner à la fin.
C'est vrai qu'il était bien Nick Andros.
Sacré Nick.
Des bons personnages dans le fléau, ouais.
Ouais, ouais.
Et oui, c'est ça, j'avais raison, c'est Garati, hein, le mec
ouais,
en Marche ou Crève.
Le mec.
Bon.
Vous êtes fort parce que moi, les prénoms, c'est une catastrophe.
Non, c'est clair. Je me souvenais même pas qu'on avait fait Marche ou Crève. Là, il y a des trucs.
Alors que ça,
j'étais pas là.
Bouleversée.
Non, si je sais, parce qu'il y a l'histoire de Julien Pomme sur Marche ou Crève et tout, mais en vrai, attends, c'est tout à l'heure, Julien, quand t'as dit qu'on avait classé les Langoliers, je me suis dit, putain, on a fait les Langoliers, quoi, je m'en souviens pas. Spontanément, je ne serais pas souvenu qu'on avait fait les Langoliers.
Ah, si.
Je me souviens avoir revu le film, mais.
C'est pour ça que t'as revu le film.
Ouais, mais.
T'as vu le meilleur du jeu.
Non. Non, mais vu que je relis pas. Je relis que la crème de la crème, tu vois. Donc le fléau et la tour sombre. Et Shawshank.
C'est vrai que t'avais relu, ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce bouquin. Je pense qu'il est temps de le fermer. On se retrouve alors bientôt pour pouvoir réécouter la partie d'Emily sur les sur les liens.
Ouais. Oui.
Ensuite, la théorie de Urd.
Oui.
Ensuite, il y aura le résumé du résumé de Hit.
Oui. Qui sera écrit par Grand Poil.
Écrit et chanté par Grand Poil.
Chanté.
Oh, et ça puis
peut, ça peut se négocier.
Le prochain gros épisode, ce sera la première partie du tome 7 de La Tour Sombre. Oui, ça y est, on entame le début de la fin.
Moi, je l'ai acheté, mais il n'est pas arrivé, il a été perdu.
Pour le coup, Julien, dépêche-toi, parce qu'il y a quand même un peu, il y a quelques pages. Hein.
Ouais, parce que c'est les deux tiers. Ouais. Bah, pour le premier enregistrement, on fait les deux tiers. Donc,
Moi, je m'inquiète un peu parce que bah, je n'ai pas envie de payer
les choix,
donc je négocie.
Suite.
Après, c'est
parce que c'est
très,
la blague
très bon
qu'on fait sur notre chan privé, mais à chaque fois, je dis, j'ai pas acheté le livre. J'ai pas acheté le livre.
Oui, j'allais le dire, ça devient un running gag.
Non, parce qu'il est très, très bien. Il se lit très facilement, mais ça reste quand même beaucoup de pages à lire. Mais il est vraiment, c'est, bon, alors, j'allais dire, c'est du petit lait, mais non, parce qu'on a dit tout à l'heure que le petit lait, c'était peut-être pas très bon.
Non, c'est le lait de poule.
Bah, c'est du petit lait.
Le livre audio en français s'écoute très, très bien.
Il fait genre 56 heures.
Ben, mais il y a 1000 pages.
Ouais.
Hein.
300 ouais, bah, heures.
Non, 1000 pages, ça va faire 30 heures.
Oh, 36.
Je vais vous dire ça tout de suite.
Plus, à mon avis, plus.
Par le, en plus,
alors,
c'est le nouveau lecteur.
Qui dit plus, qui dit moins?
Le nouveau
comédien.
Oui,
c'est le nouveau lecteur bah, qui a fait ouais, le 6 et 7.
C'est bien, tu vois, on n'a pas trop digressé jusque-là.
Et
il
donc,
a fallu qu'on dise au revoir à tout le monde.
33 heures.
On commence l'enregistrement de La Tour Sombre. Alors, Roland, où il est?
33
d'ailleurs,
heures.
D'ailleurs, maintenant, sur Amazon, La Clé des Vents est présenté comme le tome 8.
En fait, il est sorti en 8e, mais il se place dans l'histoire entre le 4 et le 5, quoi. Mais il y a des gens qui sachent et des gens qui ne sachent pas. Mais c'est, ouais, c'est. Par ordre chronologique,
c'est le 8e tome, mais c'est pas le tome numéro 8.
De toute façon, vous comprendrez pourquoi il se place à ce moment-là.
Allez, hop, 10,99€.
Ouais. Bon, allez, on va se faire des bisous. On va dire que le label, c'est Podcut, qu'on a un Patreon. ça nous sert, entre autres, potentiellement à acheter des bouquins.
Ou des adaptations pourries.
Ou des adaptations pourries sur Prime, ou ailleurs, d'ailleurs.
Pas pourries, arrêtez, bref.
Rejoignez le Discord pour papoter parce que c'est cool.
Oui.
Et puis des bisous sur les réseaux sociaux, on est là. Et puis à bientôt.
Salut.
Ciao ciao.
Des au bisous.
Revoir. Bye bye. Bisous.
Merci.
Bisous. Bye bye.
Salut, c'est Emily. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent deux fois par mois.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.